Star Wars en direct vous est présenté par SidClan.net, MintInbox.net et StarWarsUniverse.com.
A long time ago, in a galaxy far, far away.
This station is now the ultimate power in the universe.
How could they be jamming us?
A communications disruption can mean only one thing.
Star Wars on the record.
Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together.
Begun the Clone War has.
Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Star Wars en direct. Alors nous revoilà pour de nouvelles aventures après quelques mois d'arrêt. Et donc pour cette 86e émission, nous allons discuter d'un petit sujet. Mais pour cela, je suis d'abord rejoint par Sylvain Dark Serpent de SidClan. Salut Sylvain.
Salut.
Arnaud Dark Neo de Star Wars Universe. Salut Arnaud.
Salut, salut.
Et Clément alias Dark Funifuteur, également de Star Wars Universe. Salut Clément.
Bonjour à tous.
Alors tout le monde va bien?
Voilà.
Tout le monde passe un bon week-end.
Ouais.
Donc, avant de commencer justement sur notre petit débat, juste un petit mot pour ceux qui écouteraient nos émissions The Clone Wars. Comme ça, chacun sait, celles-ci ne sont plus mises en ligne. Alors, je pense que ça mérite une toute petite explication pour si tout le monde ne le sait pas. C'est juste que nos animateurs, donc, dont Louis, Thomas et moi-même avons un peu perdu l'enthousiasme. D'ailleurs, Louis a si je peux le dire, a carrément arrêté de regarder la série. Moi, je regarde, mais sincèrement, je n'ai plus tellement envie de commenter ça, parce que ça m'intéresse moins. Je regarde parce que c'est Star Wars, c'est à peu près tout. Et enfin, Thomas, il a carrément disparu de la circulation. Donc, je ne sais pas ce qu'il devient. Donc, voilà, je pensais que ça méritait un petit mot, mais pour les fans, pour ceux qui nous écoutent, j'en avais déjà parlé un petit peu sur Facebook. Vous avez The Clone Wars en différé présenté par justement Arnaud et Clément, donc n'hésitez pas à aller voir, vous avez toutes les informations sur Star Wars Universe sur le forum.
D'ailleurs, on est là pour apprendre l'art du podcast à tes côtés, mais est-ce qu'on peut t'appeler Maître Plo?
Plo Koon, ouais. Maître Dalsk, plutôt. Donc voilà, donc le sujet aujourd'hui, il y en aura, encore une petite précision, il n'y aura pas, comme dans toutes les autres, dans les habituelles émissions de Star Wars en direct, il n'y aura pas de petite partie actualité. Donc ça, il n'y aura pas de petite actualité sur les romans, les figurines et tout ça. Donc on verra si dans les prochaines émissions, il y aura le temps ou pas de remettre ça dans l'émission, mais on n'y est pas là. Pour l'instant, notre petit sujet de cette émission. Alors, je vais le retrouver parce que je l'ai perdu, évidemment. Alors,
ça
depuis la
bien.
Fin... Non, et... On a tous ces petits problèmes. Donc, le sujet. Depuis la fin de la saga au cinéma, sommes-nous retournés dans une période noire, malgré la série The Clone Wars, les nombreux romans et bandes dessinées. Donc, je pense qu'une petite explication s'impose, parce qu'on ne sait jamais. Donc, je fais par rapport à ça à un parallèle par rapport à la période noire, ce qu'on a appelé la période noire. C'est la période qui a existé entre 83 et 95 à peu près, où durant cette période-là, évidemment, il n'y avait plus de Star Wars au cinéma, et où l'univers Star Wars s'est réduit à peau de chagrin. Donc les fans n'avaient plus de nouvelles, il n'y avait plus rien du tout, il n'y avait plus de films, donc il y avait encore moins de séries que maintenant. Et donc faire un parallèle à notre époque, parce que même si on a justement, comme je le dis, The Clone Wars, l'univers, je pense que Star Wars n'est pas le même depuis que les films ont arrêté. Et je ne sais pas si même si nous aurons une série live dans quelques années, je ne sais pas si ça attirera le même nombre de personnes. Alors c'est à peu près ça mon idée de départ. Alors voilà.
Mais tu déconnes complètement là. T'as craqué. Entre 83 et 95, il y a quand même eu pas mal de choses. 91 notamment la trilogie.
On y reviendra justement.
De Zan.
Je vais d'abord lire les petits commentaires, les trois petits commentaires que j'ai eus sur Internet. Donc le premier nous vient de Olivier sur Facebook, qui nous dit « C'est un bon sujet, d'autant plus vrai que je me trouve effectivement de moins en moins intéressé par Star Wars depuis quelque temps. En même temps, quelle année ce fut ? Un TFU2 hué par la critique, une publicité permanente pour un Old Republic auquel je n'ai absolument pas envie de jouer et qui me rappelle l'abandon de KOTOR 3, la fin provisoire pour l'une des deux principales séries de comics qui, cela dit, stagnait, et enfin The Clone Wars, sans commentaire constructif, je le crains. Qu'à cela ne tienne, je ne peux toujours geeker côté DC Comics. » Le second commentaire, toujours en provenance de Facebook, écrit par Patrick. Oui, en effet, du vu, revu et encore toujours du réchauffé. Que ce soit avec la série Clone Wars qui semble ne pas être en raccord tant avec l'ancienne trilogie qu'avec la nouvelle, ce qui est pire, qu'avec l'ancienne animée Clone Wars. Star Wars, c'est aussi et surtout au cinéma. Lucasfilm doit s'affranchir de ce qui a déjà été fait, innover dans la construction narrative et faire des histoires se passant largement avant ou après la série des 6 films et sans faire de rappel à ce que nous avons déjà vu. Quand le troisième commentaire nous provient du forum de Cyclan écrit par Ritin Cornas. Donc lui, il nous a carrément fait un roman, donc j'en ai parlé avec lui, je vais carrément faire juste une petite synthèse et je vais me concentrer sur la partie costumée qui nous fait une petite vue un peu que nous n'avons pas par rapport à les autres personnes présentes ici. Donc voilà son petit commentaire sur le côté le monde des costumés. Donc depuis un peu moins d'un an, en tant que membre de la Rebel Legion française, on a, je trouve, une recrudescence des nouveaux membres qui s'intéresse au costume Star Wars et à son monde. Donc j'ai constaté ça à la RL, mais j'ai l'impression que c'est également le cas chez d'autres clubs et associations françaises, comme la 501st, mais aussi étrangères, comme en Belgique par exemple. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont nouveaux dans le costuming et les conventions. Après, peut-être que d'autres costumés penseront autrement en effet. Je ne suis pas à la RL depuis longtemps, comme d'autres y sont retrouvés depuis plus de 10 ans, mais je commence à avoir une assez bonne ancienneté dans le milieu des costumés, et donc je pense pouvoir m'avancer quand même un peu là-dessus. Au niveau costumé, en tout cas, ce n'est pas une période sombre. Après, côté niveau costume, les conventions ou sorties organisées par Lucasfilm, elles se multiplient à travers le monde. On avait les Star Wars Weekend à Disney, maintenant, et il y a Legoland en Angleterre et en Allemagne qui font des événements. On a des conventions en Pologne, il y a le Stade de France, des animations des Toys R Us récemment. Bref, le calendrier est bien chargé pour les costumés, avec de quoi faire une sortie par mois si on le souhaite. Bien, donc voilà les petits commentaires. Donc je pense qu'effectivement, comme vous commenciez à en parler, parler justement de la période sombre. Donc n'hésitez pas à reprendre votre commentaire que vous étiez en train de dire.
Oui, donc tu parles d'une période sombre, mais bon, c'est juste au cinéma.
Oui, mais on a quand même.
Il y a eu effectivement un gros trou au cinéma entre le dernier film, Le Retour du Jedi, et la sortie de l'édition spéciale. Mais c'est sûr que pour être un fan de Star Wars à ce moment-là, il fallait être fan d'autre chose. Il fallait pas être focalisé sur le cinéma. Il fallait être fan des livres, fan des BD.
Ah tu sais, les questions livres, il y a pas eu tellement de trucs justement dans cette période. Parce que le renouveau de l'univers étendu a commencé en 91, justement avec l'héritier de l'Empire. Parce qu'avant, quand on calcule ce qu'il y avait en question UE, il y avait la première trilogie Han Solo, qui était sortie, je crois, peu de temps après les films. Il y a eu les deux trilogies Han Solo Adventures et Lando Calrissian Adventure, et c'était à peu près tout. Enfin, si, il y avait aussi Splinters of the Mind's Eye, mais sinon, l'univers étendu, ça se...
Il y avait quand même les comics Marvel.
Il y avait un petit peu les comics Marvel, mais je crois qu'ils...
Ça a quand même duré quelques années.
Effectivement, mais pour beaucoup, ça, la période de cette période-là de 10-15 ans est quand même pour beaucoup une période noire parce que c'était quand même l'univers. Même si justement il y avait un univers étendu, et c'est pour ça qu'on va pouvoir faire après une comparaison à l'époque actuelle, c'est que effectivement, même avec un certain univers étendu et quelques bandes dessinées, c'était quand même un grand minimum, encore plus pauvre que maintenant.
Mais nous tous là qui sommes là et qui faisons l'émission, on est tous un peu trop jeunes pour avoir connu cette époque.
C'est sûr. Même Sylvain.
On a pris l'aventure en cours de route et on a découvert les films à la télé. Et...
Ouais.
C'est comme ça qu'on est devenu fan.
Ça dépend. Moi personnellement, j'ai connu grâce à l'édition spéciale au cinéma.
Ah, t'es non. Si jeune que ça.
Mais
oh, moi, je l'ai pas à la télé.
N'oubliez pas que, c'est moi qui contrôle l'émission, alors. Ah, non, mais là, Sylvain, oui. Je pense aussi que tu n'as pas connu du tout la période, tu l'as connue, toi, un peu la période, cette période.
J'étais gamin, je suis né en 82, donc.
Donc,
je suis devenu fan, réellement fan, lors de la sortie des éditions spéciales.
Ouais.
Et même si je connaissais avant,
On n'a pas un ancêtre de 77 qui pourrait nous dire.
Tu regardais pas le dessin animé Ewok quand t'étais petit?
Dessin animé, non, je l'ai pas vu. Les téléfilms Ewok, je me rappelle très bien les avoir vus.
Oui, moi aussi.
Mais je crois même pas avoir fait le rapprochement entre Star Wars et les téléfilms à ce moment-là, quoi.
Ouais, c'est sûr que ça pouvait être vu un peu indépendamment.
Pas vu du tout. On peut même jeter les cassettes, en fait.
Moi, je crois que j'ai découvert sur M6 à l'époque.
Ouais, voilà. Je serais le premier fan, en fait, du groupe. Parce que moi, j'ai découvert Star Wars, en fait, en 92, environ, hein. Et je suis vraiment tombé dedans, directement.
Par les cassettes, en fait.
Pas par les cassettes. Rediffusion télé sur France 3.
Ouais, pareil.
À l'époque, j'étais trop petit pour rester jusqu'à 11h du soir, et puis c'était entre guillemets trop violent. Donc, mes parents m'avaient envie de me coucher, et puis 3 jours plus tard, je vais chez mon oncle, et là, je regarde le Retour du Jedi, et c'est sur le cul.
C'était quel film?
Retour du Jedi. Même celui que t'avais vu à la télé.
Retour du Jedi.
Ah, d'accord. Moi, j'avais enregistré l'Empire contre-attaque sur cassette, et je le regardais en boucle.
Bah d'ailleurs, je pense que moi, j'ai plutôt connu aussi à la télé Star. Enfin, j'ai connu au film. 97 les films, mais j'ai connu pour revoir, ça a été évidemment les diffusions aussi sur France 2 avec les anciennes éditions. D'ailleurs, quasiment, ça, ils ont mis longtemps avant de remettre à niveau leur bobine pour la télé, hein, parce que longtemps après la sortie en 97, on avait encore les versions d'origine sur France 2. D'ailleurs, ils avaient même enregistré en cassette à une époque justement pour avoir les versions d'origine. D'ailleurs, je pense qu'il y avait diffusé justement que l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi.
C'est ça, je pense que je me rappelle aussi, uniquement.
Ouais. Je sais pas pourquoi, ils devaient pas avoir les droits de Un Nouvel Espoir.
Ouais, de toute façon, là...
Pas fait marre, je pense qu'il y en avait 3.
Ouais, non, de toute façon, actuellement, là, c'est presque la première fois qu'ils diffusent Star Wars sur des chaînes de la TNT. Ouais. 2 années de suite, en fait, hein.
Sûrement.
Ouais, ouais. C'était d'abord passé sur M6, ensuite W9.
Oui, oui.
M6, c'est pas...
Ouais, mais ça fait partie du même groupe. Et vu que les films, ils peuvent être même assez chers, c'est de sortir là.
Ça, en 83, non, hein, ça n'existait pas, hein.
Je me souviens, avant, c'était quasiment toutes les fêtes, on avait l'épisode 5 et 6 sur France 2.
Ah oui, toutes les fêtes, quand même. C'était pas un film par an?
Je sais qu'il diffusait les deux à la suite.
La suite.
J'ai vraiment un souvenir de les avoir souvent vus comme ça à la télé lors des fêtes en après-midi. J'étais. Alors après, évidemment, moins parce que j'avais les cassettes. Donc, et après en 97, j'ai eu le lecteur cassette. Donc j'ai tout de suite acheté mes premières cassettes. Ça a été évidemment, l'édition spéciale en coffret doré, quoi. Mais c'est pour ça que je fais un parallèle avec l'époque de maintenant, parce que à l'époque, il y avait la plupart des fans de Star Wars, même aujourd'hui, c'était des fans des films, parce que même si les fans aiment l'univers étendu, vous trouverez quasiment plus de la moitié n'aimera pas comptera pas l'univers étendu comme faisant partie de Star Wars. Et c'est pour ça qu'on peut facilement voir un grand changement de la communauté justement depuis 2005, justement. Je sais plus si on en parlait déjà avant l'émission ou pendant le fait de mon ancienneté, le côté nostalgique. Mais c'est vrai qu'on a quand même vu le changement de la communauté de Star Wars avec les membres sur les forums, le nombre de gens participants et tout ça. Le nombre d'anciens qui ont disparu des forums, je regardais un peu par hasard, je lisais un petit peu d'anciens topics sur Internet. Je me disais tout d'un coup, mais attends, celui-là a disparu. Et souvent, ça a suivi justement la fin des films au cinéma, parce que justement, ou alors les gens ont grandi, ou alors ils ont perdu l'intérêt.
C'est plus ça que la fin des films. Beaucoup de fans ont grandi, ont vieilli et sont passés à autre chose, même s'ils aiment toujours regarder les films.
Mais je pense qu'il y a quand même une grande majorité qui sont fans des films de Star Wars, et comme il n'y a plus de films, ils ont dû se dire, il y avait moins de trucs à voir. Et comme il y a l'univers étendu, attire moins le monde quand même.
L'univers étendu est quand même fait pour cette période-là, grosso modo pour des ados, que ce soit la série Clone Wars, ouais. Les comics.
Ouais, c'est sûr que la communauté s'est renouvelée justement avec la série, mais ça attire quand même moins de monde. Je veux dire,
pas avec la série, avec la prélogie, ça a commencé là le renouvellement de la communauté.
C'est sûr, mais on a quand même vu des...
Même si le phénomène s'est accéléré justement avec la série, ouais, le renouveau de la communauté, il s'est fait à partir de la première...
De la prélogie.
Enfin,
mais même déjà à la rediffusion, à la sortie de l'édition spéciale, il y avait déjà une nouvelle génération qui s'appropriait le film.
Voilà,
et
c'est
à partir de là, il y a eu un nouvel univers étendu qui s'est développé à partir de la sortie de la prélogie. On a vu plus de séries jeunesse.
Ouais, c'est sûr, mais on a quand
même. En roman, notamment, à l'époque.
Mais je pense que quand même que je pense que la série live, si elle arrive un jour, je pense qu'elle va aussi un peu réveiller un peu la communauté, parce que je pense qu'on retrouvera un petit peu ce qu'on a avec les films, qu'on peut pas avoir avec une série télé, c'est justement cette envie de chercher les spoilers.
Mais alors, avant la série live, il va quand même y avoir la ressortie en 3D des films.
Oui.
Et là, tu vas voir que tous les gens qui ont disparu sur les forums, ils seront dans les files d'attente.
C'est pas la même chose, parce que les films, on les connaîtra.
Ils seront là au cinéma.
On les connaîtra, il y aura vraiment pas beaucoup de nouveaux, à moins que Lucas nous fasse le coup de rajouter des petites scènes pour dire, regardez la belle 3D qu'on a mise.
Oui, mais
ça va être ça, en fait, ce qui va déterminer, à mon avis, le retour des anciens ou autres. Ça va être le premier Star Wars qui vont sortir en 3D, donc la menace fantôme, si pas de bêtises.
Ouais.
Si l'effet 3D nous met tous KO, on se précipitera pour les autres. Si on se rend compte que l'effet 3D est moyen ou pire à chier, ça va faire l'effet d'un pétard mouillé.
Ouais,
nouvelle scène ou pas.
Du Star Wars au cinéma, je pense que ça attirera toujours du monde.
C'est sûr, mais je veux dire qu'il y aura toujours des.
Je suis pas sûr. Est-ce que tu
pourrais bouder du Star Wars sur grand écran?
Si l'effet 3D est taché, ouais. Si j'ai déjà vu des mauvais films 3D, putain, tu te fais chier.
Même pas pour l'ambiance entre fans, parce que être dans une salle de cinéma avec un groupe de fans, c'est quand même quelque chose de.
C'est vrai,
c'est puissant. Il y a une ambiance, l'esprit de communauté.
Il y a ce paramètre-là qui joue, mais le coup des lunettes 3D, pour moi, même pour les gros films, ça fait vraiment gadget. Est-ce que les gens vont vraiment se précipiter pour revoir le même film simplement parce qu'on va la tranchée de l'étoile de la mort en 3D, je suis pas encore sûr.
Bah, je pense que ça va aussi attirer de nouveaux spectateurs qui n'étaient pas trop jeunes aussi.
Forcément, mais.
Les gamins qui avaient 5 ans en 99 lors de la sortie de la menace fantôme, qui n'ont pas pu forcément découvrir les films à cette époque-là, pourront les découvrir en 3D, donc ça amènera une nouvelle génération de fans. Mmh.
Et puis, mais sincèrement, je fais un peu confiance à Lucas pour réussir sa 3D. Et puis, on a encore deux bonnes années avant de l'avoir arrivé. Je pense que la 3D sera encore plus développée.
Ben, il disait 2012 quand même pour la
2012 pour le premier et après un par an.
Un par an.
Il y a intérêt à ce que ça soit bien.
Une bonne année. C'est
ce qui me fait peur.
Encore un an et demi pour faire ça, donc je pense que d'ici là, la 3D a encore le temps de s'améliorer.
Mais ils bossent déjà dessus depuis quelques années.
Oui, en plus.
Donc oui, parce que...
Ça sera pas du type choc des titans qui a été fait en 3 semaines.
Parce que je voulais justement chercher dans mes archives Lucas Mag, il me semblait qu'on en parlait depuis déjà 10 ans de Star Wars en 3D.
Bon,
à l'époque où c'était encore les lunettes bleues et rouges, j'ai pas retrouvé. Il y avait eu des essais sur 20 minutes de film.
Mais t'imagines pendant les combats sabres, on n'aurait jamais.
800.
Rouge et bleu, oui, effectivement, ils n'auraient pas vu.
Je faisais un parallèle par rapport au fait de la communauté. S'il y a une ressortie des films, il n'y a plus cette histoire de nouveauté. Bon, la 3D, c'est la nouveauté, mais question histoire, il n'y aura rien de nouveau de ce côté-là. Même si ça rattire les fans dans les cinémas, est-ce qu'ils vont forcément revenir sur les forums? C'est pas pareil.
Une fois le film sorti, il y aura plus. Est-ce que les gens resteront derrière?
Parce que si on regarde bien, les gens, les vrais fans, les grands fans venaient surtout sur les forums. Je le voyais sur Kemi Web. C'était vraiment pour découvrir le dernier spoiler le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on n'a pas forcément avec The Clone Wars. Parce que si on regarde bien, comme c'est une série animée, il n'y a pas de lieu de tournage, il n'y a pas de vrais acteurs et tout ça. Donc il n'y a pas l'histoire des rapports espions et tout ça.
Il s'amuse quand même à réutiliser des éléments des films pour essayer de faire du buzz sur la toile.
Oui, mais c'est pareil, c'est pas une histoire de spoiler qu'on a envie de découvrir à la seconde près. Je veux dire, si on regarde bien, maintenant, quasiment toutes les infos viennent du site officiel. Je veux dire, il n'y a plus de rapport espion en disant il y aura peut-être ça, est-ce que ça va se vérifier, est-ce que Lucas va le faire ou pas. Je pense que c'est un peu ce qui va ressortir avec la série live si elle se fait bientôt. C'est là où je pense aussi que la communauté va un peu revenir. C'est justement que les gens vont vouloir, il y aura des lieux de tournage, donc les gens voudront absolument avoir les dernières infos sur le nouveau décor et tout ça. Je pense qu'il y aura de nouveaux rapports espions sur les spoilers et tout ça, ce qu'on ne peut pas avoir sur la série Clone Wars.
Ouais, ça, c'est une effervescence à chaque fois qu'il y a un truc Star Wars qui sort comme ça. Et il y a le fait qu'il y ait des acteurs, ça, c'est un truc, la plupart des gens, même que ce soit, à mon avis, les fans, n'importe quoi, Star Wars, c'est des films avec des acteurs, quoi. Voilà. C'est une réalité, c'est ancré dans une forme de réalité. Et, ce qui n'arrive pas, bien sûr, avec les autres Clone Wars.
Il y a quand même les acteurs qui font le doublage. Là récemment, il y a eu la news qui est tombée sur le retour de Liam Neeson pour faire la voix de Qui-Gon, ça fait un gros buzz.
Oui, mais c'est quand même, encore une fois, ça s'est diffusé par des moyens officieux. Je veux dire, c'était un site genre CNN ou un truc ou EW qui a diffusé le premier l'information. Ce n'est plus un rapport d'espion qui nous disait est-ce que ça va se faire, est-ce qu'il faut que ce site internet de fans publie la nouvelle le plus rapidement possible pour que ça attire du monde, pour que ça intéresse. Quand ça passe directement par des trucs officieux, c'est différent, je veux dire.
Ouais, mais en même temps, maintenant, aujourd'hui, quand une info passe pas par des sources officielles, ça peut être facilement une rumeur ou un fake.
Ouais, mais
il y a toujours des rumeurs et des fakes sur Star Wars qui circulent régulièrement,
oui,
qui reviennent, toujours les mêmes.
Mais justement, c'est...
La troisième trilogie...
Ouais, voilà.
D'ailleurs, je crois même qu'il y a encore une nouvelle rumeur, je sais pas, encore un site, je crois que c'est Allociné qui a dû comprendre un truc mauvais par rapport à la Star Wars en 3D, comme quoi si Star Wars en 3D fonctionnait très bien, que Lucas se produira une nouvelle trilogie sans la réaliser, quoi.
Alors, en 30 ans, il sera plus là, quoi.
C'est encore la nouvelle rumeur qui est encore apparue, quoi. De toute façon, ça c'est encore une rumeur qui apparaît tous les 6 mois quasiment.
Je crois qu'on en parle pas, mais il y a ça aussi, c'est le fait que d'une part il y a une retombée d'effervescence, c'est obligé, quoi, ça retombe, ouais. Parce qu'on connaît le passé de Vador, et puis en plus on sait qu'il y aura plus jamais de nouvelle trilogie, quoi.
Je pense que les fans vont retrouver cette format un peu attendre des films via la série live.
Voilà. Moins que la prélogie, mais il y aura peut-être.
Mais je pense que ça va faire revenir certains vieux fans qui voudront avoir la dernière info, le dernier spoiler en se disant tiens, il va se passer ça dans tel épisode. Ouais. On verra plein de documentaires apparaître.
Et ça va aussi faire apparaître de nouveaux fans parce qu'il y aura des fans de Star Wars qui seront fans de la série.
Mais je pense qu'il y a aussi des gens qui vont découvrir Star Wars par la série.
Voilà, comme il y a des fans de aujourd'hui, on a des fans de jeux vidéo Star Wars, des fans de livres Star Wars, des fans de BD Star Wars. L'UE est tellement vaste qu'il y a des domaines de spécialisation des fans.
Voilà.
Il y a des fans de costumes là, comme tu parlais de Rita Cornasse. Ouais. Il y a différents types de fans.
C'est sûr. Voilà.
On partage tous une passion commune pour l'univers Star Wars, mais on a tous des niches.
C'est pour ça qu'il faut mettre justement cette histoire de période sombre, c'est qu'évidemment pour ceux qui sont fans de l'univers étendu. C'est pas pareil, mais pour les fans surtout des films ou du format avec vrais acteurs, ce qu'on appelle live, c'est sûr que pour eux, pour l'instant, ils attendent la suite, quoi.
Ils attendent la suite parce que de toute façon, ça, c'est une question de réalisation, et puis que ça coûte moins cher de faire des dessins animés et tout comme ça. Voilà. Quoi,
mais même après, justement, on va passer. Je pense qu'on peut entamer une partie univers étendu, c'est qu'on même de ce côté-là, je pense qu'on a un petit changement. Si on regarde bien, j'en parlais justement aussi sur les forums, comparé à ce qu'on avait en 2000, juste avant la fin des films, c'est le nombre de surtout je parle en VO parce que je suis l'actualité des VO, c'est que le nombre de grands formats qui sortent. Je veux dire que maintenant, c'est quasiment plus de la moitié des nouveautés sortent en grand format. Alors qu'à une, maintenant, je crois que c'est quasiment 6 hardcover par an.
Qu'est-ce que t'appelles grand format? C'est les grands livres?
Ouais, les gros, bah oui, c'est un genre presse à citer, quoi.
Genre de presse à citer. Okay.
Donc, en Amérique, c'est quasiment, je crois que c'est la moitié des sorties maintenant, c'est en grand format. Alors que je me souviens, avant la fin des films, on avait 3, voire 2 grands formats par an maximum. Alors est-ce que je me dis, est-ce qu'ils en sortent plus de grands formats pour attirer, pas forcément pour attirer plus de fans, mais justement peut-être pour compenser, peut-être qu'il y a moins de lecteurs et donc ils sortent plus de grands formats, peut-être pour gagner un peu plus d'argent parce qu'ils ont moins de lecteurs. Et on peut faire aussi de ce côté-là, on a aussi le côté comics. Là, justement, je faisais mes petites listes d'achats dans les mois qui viennent, mais je viens d'acheter aujourd'hui le dernier Knight Errant. Et si on regarde bien, dans les prochains mois, on a que 2 séries par mois, je veux dire. Il y aura bientôt la suite de Darth Vader and the Lost Command. Et d'autre côté, on aura la fin de Legacy War. Avant, je me souviens, il y a encore quelques années, on a eu Dark Times qui sort tous les 3 ans maintenant. On avait quasiment une bande dessinée par semaine. On avait Empire, on avait Republic. On avait quoi aussi, je sais plus, là, tout d'un coup, évidemment, il y avait KOTOR pendant longtemps.
Oui.
KOTOR, Legacy.
Legacy.
X-Wing, c'était déjà fini?
X-Wing, il y a eu Rogue Leader, une petite série, mais sinon c'était terminé. Mais on avait quand même 4 grandes séries, au moins, on avait, ça alternait une nouvelle sortie toutes les semaines. On a moins de la moitié maintenant, je veux dire. Donc même de ce côté-là, est-ce que
on sait qu'il va y avoir une nouvelle série sur Qui-Gon qui va arriver.
Aussi, mais sinon, mais pour un, ça
ferait. Il y a d'autres.
Il n'y a plus de grandes séries qui sont sur le temps. On alternait une fois par mois, comme on a pu avoir justement, je rappelle, République et après Rébellion et Dark Times qui a suivi Empire.
Et je me suis pas renseigné sur les futures sorties BD. Est-ce que, à part la série sur Qui-Gon, tu sais s'il y a d'autres choses qui vont arriver?
Pas tellement, justement. C'est justement ça. Il n'y a pas tellement de trucs. Je vais rapidement le voir pendant qu'on parle.
Ah, ça, c'est les sorties se sont tassées parce que tout était boosté par la,
voilà,
par la logique.
Maintenant, ça s'est calmé.
Voilà, c'est pour ça. Ils ont dû voir qu'il y avait moins de lecteurs, donc ils font moins de sorties. C'est pour ça que c'est...
Pas forcément moins de lecteurs, mais ouais. ils se sont tous auto-boosté les uns les autres. Parce que, tiens, il y a ça, on fait ça, et ça. Là, les faits, tout s'est calmé. Il va forcer, à un moment ou à un autre, il va y avoir un coup de boost. Est-ce que ça va être par les ressorties des films 3D?
Ah, sûrement. Bah oui, comme on avait dit d'ailleurs. Est-ce que ça sera le début, comme on avait dit sur SVU? C'est qu'ils vont sortir d'ailleurs 2 bouquins réédités, 2 bouquins qui seront Shadowhunter et la novélisation du film avec un petit texte en plus. Donc je pense que déjà ça va lancer. Mais donc là, par rapport à ce que me disait Clément, là j'en regarde effectivement, là il y aura Darth Vader, mais une fois que Darth Vader sera terminé, oui, c'est ça, ça va, Jedi Dark Side, ça va commencer quasiment en même temps que quand va se terminer Darth Vader et Legacy War. Dark Side va sortir le 18 mai, là j'ai le site Dark Horse, et le 25 mai, une semaine après, se termine en même temps Darth Vader and the Lost Command et Legacy War.
Ouais, mais attends, en plus je te pose la question alors que je sais, parce que il y a quand même CCW, The Clone Wars, qui crée son propre univers étendu et ses propres comics.
Oui, mais je veux dire.
Là, je pense que les comics de Clone Wars vont.
Et il y aura le jeu vidéo. Même il y a des Old Republic, si ça.
Voilà, effectivement, on allait en venir après sur le.
The Old Republic avec ses web comics, et je pense que ça va faire comme WoW. Il va y avoir des BD, des romans dérivés.
Oui, il y aura les romans, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça va attirer peut-être le lecteur lambda, mais est-ce que ça va attirer?
Si le jeu marche, ouais.
C'est sûr. Encore c'est une fois, est-ce que ce jeu va attirer, vu le succès de
KOTOR 1 et 2, je pense qu'il y a quand même une bonne base de fans.
Ouais, alors, est-ce que ces fans sont prêts à payer un abonnement?
Voilà. Parce que je crois que Star Wars Legacy, ça s'est cassé la gueule. Je crois. J'ai pas vraiment suivi l'histoire de Star Wars Galaxy.
Galaxy Rush 3.
Un Galaxy, c'était un échec.
Ça a été un échec.
Au début, je crois que ça a vraiment bien marché. Je crois même.
Ouais, mais l'effet est tombé assez rapidement parce que, comme d'habitude, hein, tout le monde veut jouer un Jedi.
Ouais.
Et l'intérêt du jeu n'était pas là, quoi.
Bah, le problème, c'est que je pense que ça a été l'erreur du jeu d'en mettre déjà. De toute façon, je pense qu'ils auraient mieux fait de pas en mettre du tout.
Non, ou ce qui aurait, à mon avis, mieux.
Ça aurait pas dans l'univers. Mieux valu.
C'était un phénomène aléatoire. On tire, enfin, le jeu tire au sort aléatoirement un joueur qui, quel que soit son profil et autres, on dit du jour au lendemain, toi t'es capable d'utiliser la force. Après qu'il devienne un Jedi, un Sith ou un chasseur de primes qui utilise la force.
Oui, pour les présentés dans Galaxy, ça allait pas du tout d'avoir des tonnes de Jedi, je veux dire.
Ça aurait pas été facile aussi si ça avait été du tirage au sort.
Ça fait un million de jaloux, hein, derrière.
Voilà.
Un million de jaloux.
Dans ces cas-là, ça veut dire que le gars, la personne tirée au sort, tirage au sort ou parce qu'elle a réalisé tel ou tel truc, ça aurait été à la fois une récompense et une malédiction, puisqu'il aurait dû mériter son,
aurait revendu son coup pour une fortune.
À ce que j'ai compris en écoutant d'anciennes émissions de Star Wars en direct où il y avait toute une chronique sur le développement de Star Wars Galaxy, apparemment, il fallait vraiment être très prudent dès qu'on était Jedi parce qu'on était vraiment tout de suite pris pour cible.
Ouais,
c'est que l'époque Galaxy qui était l'époque de juste avant l'épisode 4 ou pendant l'épisode 4, je sais plus exactement, c'était pas une époque où il fallait être Jedi, quoi, je veux dire, mais ça n'aurait pas convenu au jeu de se retrouver avec 5000 Jedi comme si on était en ancienne république.
Ah oui, d'accord. Oui, c'est vrai que c'était sur la période naissance de l'Empire.
Oui, et puis d'après ce que moi je jouais pas à Star Wars Galaxy, mais d'après ce que j'avais entendu, c'était pas facile de jouer de Jedi.
Voilà, exactement. J'ai pas du tout joué parce que
j'avais essayé l'une des périodes d'essai. J'avais commencé dans une espèce de base, mais sur un météore avec un chasseur.
Ouais, c'était moi. J'avais essayé ça aussi, exactement.
J'avais été beaucoup déçu parce que tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment gérer ton personnage, t'as aucune indication, et puis t'as personne, quoi.
Ouais, malheureusement, c'est un peu ça le problème maintenant pour les MMORPG, c'est que tout le monde estime qu'on sait comment y jouer. Et c'est un peu ça qui me fait, c'est pour ça que j'ai pas envie de jouer non plus à The Old Republic, parce que je ne connais rien du tout au MMORPG. Il y a déjà ça, et en plus le fait que derrière il faut payer l'abonnement. Et en plus, il faut avoir le temps, parce que si c'est pour c'est pour payer 20 euros par mois et avoir le temps d'y jouer.
Oh, bah, t'inquiète, chômeur, hein, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Toujours est-il que la sortie de The Old Republic je pense que ça va créer un UE dérivé de The Old Republic, comme The Clone Wars crée son propre UE.
On a déjà en BD, début, en roman.
On a déjà des webcomics, on va avoir des romans, je crois.
On en a déjà eu un, on en aura un deuxième qui va bientôt sortir.
Voilà. Et donc ils se basent aussi sur le succès de KOTOR 1 et KOTOR 2. Moi, je pense que BioWare peut jouer un coup comme Blizzard. BioWare est en train de devenir un vrai concurrent à Blizzard. Bon, je pense que ça va que Thor va avoir comme WoW un tout un développement.
Mais d'un autre côté, pour Warcraft, c'est eux qui ont vraiment inventé tout. Alors que Star Wars, c'est quand même un univers qui est déjà existant. Donc c'est pas le même impact.
Oui, ouais, mais
si le jeu, chacun
son tour.
Vas-y, c'est bien.
Donc, en fait, si le jeu est vraiment bien, qu'il est souvent mis à jour, s'il y a des nouvelles quêtes qui sont rapidement disponibles, si le jeu est constamment mis à jour, ça pourra marcher. S'il y a trois Pékins qui jouent dessus, et puis que BioWare, voyant que c'est un échec, il ne fait plus aucun support, il va se viander.
Bah là encore, ça va être un cercle vicieux. Je veux dire, s'ils ont personne pour jouer, ils vont pas mettre à jour. Et s'ils ne mettent pas à jour, personne ne va jouer.
Voilà, c'est ça.
Exactement.
Le destin de ce jeu-là va se faire dans les 6 premiers mois. S'il marche dans les 6 premiers mois, il y aura aucun problème pour ça.
Est-ce que
longtemps.
Si j'ai bien lu sur Internet, je crois qu'il faudrait qu'ils aient un demi-million de joueurs pour rentabiliser un truc comme ça.
C'est ça, c'est ce qui... Alors, le problème, c'est 500 000 joueurs pour le rentabiliser. Ouais. Je sais pas combien il va être l'abonnement, hein, parce que...
15 euros.
Ça va rester dans le... Ouais, à peu près.
Ouais. Mais non, mais ça, de toute façon, c'est...
Vu les rumeurs... Je sais pas si t'avais vu les rumeurs qui parlaient de la somme engagée pour ne serait-ce que développer le jeu, quand ils te disent avec 500 000 abonnés, c'est bon, on rentre dans nos cordes, ça fait quand même un peu peur, quoi.
Ouais. Moi, je suis un peu l'actualité du jeu justement à cause de l'univers étendu, mais je sais que j'ai pas du tout l'intention d'y jouer. En tout cas. J'aimerais bien y jouer, mais d'acheter déjà le jeu qui va coûter bonbon. Puis l'abonnement qui va aussi compter bonbon.
Si sur le final. Il y aura toujours des périodes d'essai.
Oui, c'est sûr, mais si c'est justement.
Une période d'essai, après.
Si tout le monde l'achète juste pour les périodes d'essai, au bout de 3 mois, il n'y aura plus personne.
Tu as vu les vidéos?
Oui, j'en regarde toutes les vidéos qui
sont. Les vidéos sont vraiment sympathiques. Elles sont assez bien réalisées.
Effectivement. J'espère vraiment qu'ils ont fait un truc accessible à tous, parce que les gens qui sont nouveaux qui seront fans de Star Wars mais qui n'auront jamais touché un jeu massivement en ligne, il faudrait vraiment qu'ils aient un moyen de s'en sortir rapidement, parce que si tout d'un coup on découvre que faut vraiment connaître par cœur le MMORPG derrière, je pense que ça va rapidement les calmer, les gens.
Ils auront quand même les BD, les livres dérivés du jeu.
Ouais, mais ça, par les fans, si les joueurs qui découvrent un peu l'univers Star Wars par le jeu et n'arrivent pas à y rentrer dedans parce que ce sera peut-être trop compliqué s'ils savent pas comment y jouer, je les vois pas s'intéresser à l'histoire derrière.
Le gameplay, je pense que ça sera expliqué. Maintenant, le principe d'un MMORPG quand même, c'est d'apprendre soi-même, quoi.
Oui, mais il faut un minimum, il faut mettre 3 mois pour comprendre un peu à jouer correctement, alors que des gens qui sont habitués au jeu en ligne nous butent au bout de 10 secondes.
Ah, c'est sûr.
C'est un peu ce que j'avais vu, d'ailleurs, je crois, je sais plus où j'avais entendu ça, mais c'était à peu près ça, c'est que le gars, il commençait un peu à y jouer, il avait pas le temps de dire ouf, qu'il était tué par les habitués, et évidemment, ça l'a fait chier, quoi.
Oui, au revoir. Par ceux qui sont déjà level maximum.
C'est parce que ça a été mal confectionné, quoi. Quand dans World of Warcraft, quand tu commences dans une zone, t'as pas d'ennemis, tu joues en player versus environnement, t'as pas d'ennemis qui viennent t'attaquer, quoi.
Tu vois. J'ai même vu d'ailleurs, je pensais à Thor, et je regardais un petit peu, je suis retourné voir un peu un site officiel, pas vraiment officiel, mais un site le site Star Wars français pour Galaxy, et j'ai vu qu'il y a encore des gens qui jouaient, mais là aussi, avec qui disaient on n'a pas le temps de comprendre comment ça fonctionne, mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui disait viens sur ce serveur-là, ça sera plus calme pour apprendre, quoi. Mais il faut vraiment qu'ils fassent un serveur ou vraiment un très très bon tutoriel pour que les nouveaux joueurs au MMORPG savent s'en sortir, parce que s'ils savent pas s'en sortir, ça va tout de suite coûter le jeu.
C'est sûr. Alors, on n'en parle pas, mais il y a aussi un espèce de MMORPG pour les enfants basé sur The Clone Wars.
J'ai pas vraiment suivi je sais que ça existe, mais j'ai pas.
Je sais que ça existe aussi, mais j'ai pas été testé.
Moi non plus.
De ce que j'en ai vu et des tests que j'ai vus, c'est vraiment simpliste. T'as des mini-jeux à l'intérieur du jeu lui-même. C'est des tower defense, on se combat dans une arène. C'est vraiment, c'est le MMORPG pour les gamins, quoi. Ouais. C'est pas avec
ça. Ça joue en ligne, je crois, y a pas de téléchargement.
Ouais, ouais, c'est uniquement en ligne. C'est pas avec ça que tu fais un renouveau. Ça. C'est vraiment pour les gamins qui sont fans de la série, qui veulent faire mumuse avec Ahsoka, quoi.
Ouais. Et en plus, il faut payer pour acheter des équipements ou des.
C'est
pas comme ça fonctionne. Tu payes pour acheter des customs.
Je sais plus. Non, je crois pas. J'ai pas vu ça.
Je crois qu'il était entièrement gratuit, moi.
Bah, entièrement non, mais enfin, apparemment. Je crois qu'il y a une base gratuite et ensuite tu peux payer pour acheter des.
C'est quand même, tous les MMO comme ça gratuits se financent comme ça. Pour les items, ça, les nouveaux items. Hop, tu prends un allopass, tu balances 10 euros et hop, t'as ton truc, quoi. C'est comme ça qu'ils s'autofinancent, hein.
En tout cas, c'est sûr qu'il y aura sûrement un univers étendu qui va se développer, justement. Dernièrement, il y a via la page officielle des romans Star Wars, c'est carrément Del Rey qui s'occupe de cette page-là, qui a demandé des conseils aux fans pour voir ce qu'ils voulaient un peu plutôt sur la suite de l'univers, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai même mis mon petit grain de sel pour leur dire pourquoi pas, à la fois tout en continuant le futur de Star Wars après Fate of the Jedi, pourquoi pas faire quelque chose carrément encore plus loin dans le passé, parce que on reste pour l'instant, on n'a jamais dépassé les moins 4000 ans. Alors pourquoi pas voir ce qui se passait en moins 10 000 pour une fois.
Le problème, c'est qu'il y a les vétos de George Lucas.
Pas surtout.
Qui bloquent sur quelques périodes.
Oui, mais je veux dire, on pourrait carrément faire des trucs un peu plus loin, quoi.
Ben, on connaît quand même un peu cette période, parce que dans les jeux KOTOR, il te parlait d'une race extraterrestre qui avait vécu en moins 10 000 et qui maîtrisait la galaxie, enfin, qui avait conquéri toute la galaxie à cette époque-là.
Oui, mais justement, pourquoi pas plus développer ça que juste en parler de loin.
Moi, j'aime pas trop quand ils s'attaquent à plusieurs périodes en même temps, parce que bon, là, dans les 10 dernières années, on avait la période KOTOR, la période Clone Wars et la période Legacy. Si. Les 3 en même temps, c'est pas facile à suivre pour un fan. Il y en a qui se spécialisent sur une période, mais moi, j'essayais d'être généraliste et.
Déjà, les fans français ils ont plus de facilité quand même.
Avec le rythme de sortie plus lent, voilà.
Effectivement. Ouais, parce que, c'est sûr. Aux USA, ça doit galer, hein. Le portefeuille, il doit raquer. Hein.
Là aussi, on peut aussi se dire que pour le fan français, c'est pas non plus facile de garder sa fanitude en vie, quoi. Du côté Delcourt, on a de quoi faire, mais du côté roman, même pas 6 sorties par an, je crois que on en a pas que 5 cette année, un truc comme ça.
C'est déjà pas mal, hein.
Ouais, comparé aux 8 sorties américaines.
Bon, le problème des romans français, c'est les rééditions, parce que si on prend les romans en cours, on a du mal à suivre.
Et puis aussi, faut dire que Star Wars n'est pas aussi ancré dans la culture française que l'est la culture américaine. Oh. Comme on peut le voir, c'est carrément chaque bouquin Star Wars qui sort, il rentre dans la meilleure liste des bouquins vendus.
Oui.
Ça, le jour où tu verras ça en France, il y aura un problème, quoi. Tu te diras, merde, ça y est, plus aucun livre qui sort derrière.
En France, on n'aime pas trop la science-fiction.
Je veux dire qu'on a moins de fans. En Amérique, Star Wars, ça fait partie de la culture, quoi. Quasiment, chaque film a presque sa petite référence à Star Wars. Les séries, t'as quasiment toutes les séries ont une petite référence au tard à Star Wars, je veux dire. Alors qu'en France, quand t'es gamin, comme moi je l'ai été, quand je suis devenu fan en 97, c'était raillerie, moquerie et tout ça. En Amérique, tu te dis fan de Star Wars, tu n'aurais pas autant de problèmes qu'en France.
Si ton frangin est fan de Star Trek.
J'allais le dire. Si tu déclares que t'es fan de Star Wars au milieu d'une convention de Star Trek, là.
Bah, t'as intérêt à courir vite.
Là, tu peux courir. Ça, je trouve ça pathétique, personnellement, mais bon. Il est fan de Star Trek.
Ouais, non, mais.
Déconnecte-le.
Non mais bon, c'est juste des petites railleries qui existent.
Je pense que la période noire est moins prononcée en Amérique.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Hein, même dans les années 80, on parlait tout à l'heure la période 93, tout ça. Ouais. En Amérique, ça continuait. Il y avait qu'en France qu'il y avait pratiquement plus rien.
Je pense quand même en Amérique, ça a été noir parce que comme je disais, j'avais vraiment le minimum de bouquins. Quoi. Il y a eu deux petites trilogies, c'est tout, je veux dire.
Oui, mais ils avaient quand même les premiers fan clubs là-bas. Alors que nous ici, on n'a pas vraiment eu de.
Je crois que le Insider, je crois, a commencé qu'en 95. Hein. Non, si je me trompe pas.
Si tard.
Ah oui.
Ils n'avaient pas des premiers fan clubs. Bah, ils devaient quand même avoir des petits fan clubs artisanaux.
Je vois pas pourquoi ils auraient fait des fan clubs. Techniquement, Star Wars était terminé à l'époque, avant la ressortie.
Mais il n'y avait pas déjà des conventions et des.
C'est ce que je pense. Il devait y avoir Steve Sansweet. Sa collection, il l'a pas commencé en 95. Hein.
Et Dan Masden, il n'avait pas commencé à faire des petits.
Je veux bien qu'en France, dès que. Tout ce soit tassé, mais aux États-Unis, je crois qu'ils avaient déjà des conventions, des accords avec les parts d'attraction pour qu'il y ait, toujours.
Je sais pas quand il a commencé le premier.
Non, mais même au-delà des Star Tours,
il y avait des conventions sur les produits dérivés, les trucs comme ça.
Par contre, je connais pas non plus les sorties jeux vidéo de l'époque, parce que je suis pas tellement jeux vidéo, donc.
Il y a quand même eu X-Wing.
Ouais, dans les années 90, X-Wing, il y a eu tous les Star Wars Arcade aussi qui sont sortis, les trucs sur Super NES, tout ça. C'est dans les années 90, hein. Il y a eu ça, c'était là.
Après, c'est surtout en 95 que ça s'est reparti avec TIE Fighter et Dark Force. Et ensuite, c'est suite.
Oui, X-Wing Alliance aussi.
Oui, mais c'était après.
C'était en 98 qu'il est sorti.
Oui. Et puis maintenant, toutes les séries des Battlefront. Ça, je crois que quand même côté jeux vidéo, on n'a pas été trop déçus. Hein.
Non, voilà, mais là aussi, c'est, ça attire pas comme certains comme moi sont pas jeux vidéo. Ça attire pas le même nombre de fans.
Il y a quand même eu le phénomène le pouvoir de la force.
Ouais, mais bon, je pense que là, ils ont joué justement sur le succès du premier pour faire le second, et résultat.
C'est ça. C'est ça.
Parce que ça
le deuxième essaye de reprendre le même succès. Le problème, c'est que le jeu, il faut vraiment adorer balancer des Stormtroopers contre les murs.
Je l'ai pas acheté, mais mon meilleur ami l'a acheté, et j'ai vu, il l'a terminé comme de rien, il l'a pas aimé, il l'a même revendu carrément.
Tu le finis extrêmement vite, tu te rends compte qu'il y a des fois, le niveau est super beau, tu passes la porte, c'est tout vide, c'est à chier, t'as l'impression que ta console vient de rendre l'âme.
J'ai comparé parce que je télécharge, moi, les cutscenes, là, les scènes cinématiques. Le premier jeu, on en avait une bonne heure de cinématiques. Le premier, à ce que j'ai compris, il a vraiment que trois grands niveaux, et cinématiques, t'as 20 minutes, quoi.
Le deuxième, tu veux dire?
Le deuxième, oui. Mais le premier, je me souviens, j'avais été chargé, et la cinématique, t'as carrément un petit film d'une heure. Donc rien que
ça. L'intérêt de ce jeu, c'était de capter les joueurs sur console, parce que on avait plus de jeux sur PC à la suite des Jedi Knight.
Oui, mais alors,
donc ils ont fait un jeu pour console, et c'est vrai que le scénario est limite un peu bidon, mais je pense que ça a quand même eu du succès, et ça crée son propre univers étendu lui aussi.
Malheureusement,
parce qu'il y a eu des romans et des BD.
C'est sûr, mais malheureusement, avec le succès de
le roman, Force Unleashed, c'était vraiment à chier.
Le problème, c'est que c'est comme tous les romans tirés de jeux vidéo, c'est qu'on sent trop le changement de niveau. On sent vraiment, tiens, c'est le moment de faire la quête. Tiens, c'est le moment de changer de niveau. Tiens, c'est le combat contre le boss. C'est un peu, il y a pas que.
Non, là, là, dans celui-là, tu te fais vraiment chier. Il y a aucun, même les combats où toi, dans le jeu, t'en chies pendant 3 heures pour venir à bout du boss. Là, dans le livre, c'est torché en 3 livres.
Il peut pas non plus.
C'est.
Le problème, c'est que l'auteur, il peut pas non plus détailler un combat qui dure 3-4 minutes dans le jeu. Il va pas le détailler en 3-4 pages non plus. C'est ça le problème.
Bah, et pourquoi pas? L'intérêt du jeu, il est là. Il est dans les combats. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de la psychologie de Proxy ou de la pilote de Juno, alors que
dans beaucoup de bouquins, toutes les bastons sont généralement un peu réduites. On verra jamais un duel durer 5 pages dans un bouquin.
Dans l'un des Tom Clancy, ils détaillent bien une explosion nucléaire pendant tout un chapitre. Alors pourquoi est-ce que pas ça? Et pourtant, ça dure une fraction de seconde. Mais ils arrivent à te tout décortiquer pendant un chapitre.
De toute façon, en tout cas, le scénario de Force Unleashed 2 a été écrit en 5 minutes. Ça n'a pas été compliqué. Mais le problème, c'est qu'avec tout l'enthousiasme derrière des fans qui l'a un peu, comme nous disait le commentaire sur Facebook, l'a hué, est-ce que maintenant, vu qu'en plus, comme ça termine sur un gros cliffhanger, j'espère au moins qu'ils vont nous offrir une fin d'une certaine façon, que ça soit en bouquin.
Non, les mecs disent qu'il n'y aurait pas 2-3.
Ouais,
mais ils vont faire une suite en bouquin ou en BD, forcément.
J'espère, parce que nous laisser sur l'emprisonnement de Dark Vador, vraiment, planter là-dessus, il y a un gros problème, quoi. Même s'il n'y a pas de jeu, j'espère qu'ils vont au moins nous conclure d'une certaine façon. Si ce n'est pas en jeu, comme vous le dites, en BD ou en roman.
Starkiller, c'est une grosse erreur, quoi.
Ils auraient mieux fait de faire une fin ou, je sais pas, un DLC qui va sortir, je sais pas, parce qu'ils font souvent des DLC. Est-ce qu'ils pourraient pas nous sortir carrément un petit niveau final pour la libération de Vador, quoi? Mais, parce qu'on a quand même Ramkota qui est toujours en vie, t'as l'apprenti secret qui est en vie, et t'as Vador qui est emprisonné. Alors, il y a tout ça à régler quand même.
De toute façon,
si nous laisse dans le trou, À moins de s'en servir pour la série live, mais j'espère pas, parce que j'espère.
Ouh là!
Voilà, mais... Non, on va éviter. L'acteur en vrai, il a vraiment une tête de con.
Le problème, c'est que j'espère que quand Lucas a dit à l'époque qu'il ne voulait pas de Jedi dans la série, j'espère vraiment qu'il va pouvoir nous le faire, mais comme au début, Clone Wars devait se concentrer sur des petits personnages, indépendant, il nous obligeait à supporter Anakin et Obi-Wan qui avaient déjà une chronologie bien bourrée.
Et Ahsoka.
Oui.
Starkiller est à The Force Unleashed, parce que Ahsoka est à The Clone Wars, que, tu vois, il est rare.
Ah non, il y en a un des deux qui est plus insupportable que l'autre. Ouais. Lequel.
Non, mais les deux, ils sont chiants. Enfin, ceci dit, moi j'aime bien Ahsoka, c'est mon
Starkiller personnage. Starkiller était pas tellement gênant dans le premier.
Oui, bah, c'est
dans,
un gros
c'est dans le second, quoi. C'est je veux sauver Juno et c'est rien d'autre, quoi.
Ah si, dans le premier quand même, il faut une super raclée à Palpatine et à Vador. Oui.
Non,
c'est quand même...
C'est ce que je dis, mais je veux dire, dans le second, il veut juste chercher Juno et c'est point final.
Il n'a pas vraiment... Comment elle est gaulée aussi.
Pardon?
T'as vu comment elle est gaulée aussi?
mais alors, le problème de TFU, c'est l'implication de Lucas. Comme Lucas s'est impliqué, c'est à moitié canon.
Bah, c'est même pas à moitié, ça l'est de toute façon.
Voilà.
De toute façon,
non, mais là, faut...
Ça, le problème.
Là, faut arrêter, c'est à toi de... Moi, j'ai les deux jeux, même si c'est marrant, j'aime bien y rejouer de temps en temps. Du coup, du canon, pas canon, c'est à toi de te faire ton truc.
Bah, là aussi, ça veut carrément faire un énorme sujet pour un autre débat, parce que ça, si on commence à se dire, à parler du canon, pas canon, selon les fans,
oui,
on
va se
barrer, parce qu'on avait aussi un petit morceau comme ça, on en a discuté un petit peu sur les forums de SVU, on peut aller loin, parce qu'il y a, finalement,
oui,
on a notre propre canon, mais après, faut se dire qu'il y a quand même le canon officiel de Lucas, et
Pour aller très vite sur le canon, mais le problème, c'est qu'une fois que c'est canon dans l'univers étendu, les autres documents de l'univers étendu rebondissent dessus. Ouais, et font des références à ces événements.
Et malheureusement,
tu te retrouves avec une multitude de documents qui font des références à des événements que t'aimerais pas avoir dans le canon.
Ouais,
mais
ça,
t'es obligé de les prendre en compte puisqu'ils sont considérés par les autres comme étant dans le canon.
Le problème de l'actuelle série The Clone Wars, c'est qu'elle supplante un peu tout ce qui s'est fait avant. Alors après, il faut vraiment qu'ils arrivent à ce qu'on appelle à retconner tout ça pour que ça rentre dans la chronologie. Mais le problème, c'est que je disais justement sur le forum, c'est qu'après, les fans qui font leur propre canon et qui ignorent telle partie, c'est un peu comme je disais, je répondais à je sais plus qui sur le forum, c'est un peu quelqu'un qui dit cette loi ne me plaît pas, donc je vais la violer. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je veux dire, ce canon-là me plaît pas, donc pour moi, il n'existe pas. C'est un peu comme une loi. On dirait, celle-là, j'ai le droit, elle me plaît pas, donc je vais faire ce que je veux.
Ah, mais là, c'est vrai que si tu attaques avec The Clone Wars, mais là, on peut dire que les scénaristes de The Clone Wars prennent pas en compte le canon et recréent un univers étendu à partir de rien.
Bah, c'est ça le problème, c'est que...
Ils vont quand même puiser quelques éléments, mais ils se contrefoutent de ce qui a été fait avant.
C'est aussi le problème. J'en avais parlé dans...
Contrefoutent, non, puisqu'ils intègrent des personnages.
Ouais, oui, ils reprennent quelques éléments, mais les événements, ils n'en tiennent pas compte.
C'est ça le problème, c'est que
quand tu compares ce qui se passe dans la série avec ce qui s'est passé dans la BD Clone Wars République, ça colle pas. Tu peux pas mettre les événements bout à bout. Le type qui bosse chez Lucasfilm, Leland Chi, il bosse sur la continuité et la cohérence, il peut pas faire ça.
Non, mais c'est que même entre les trucs Clone Wars faits par les gens de la série, là, il y avait quelqu'un, je sais pas si vous connaissez de nom, Nathan P. Butler, qui s'occupe d'une énorme chronologie Star Wars qui met à jour à chaque sortie de bouquin. Mais lui, il a mis sa chronologie Star Wars à côté. Mais même entre les bouquins et la série et une bonne des Star Wars, The Clone Wars, par exemple, les petits digests, les petits trucs, il en a parlé l'autre jour. Même, rien qu'avec le dernier épisode, là où ils se font mettre dans la carbonite, ça rentre en conflit avec les gentils de la destruction qui sont le petit digest sorti par Delcourt récemment. Ou alors, on a encore l'ancien design des personnages, et ils se font déjà mettre en carbonite. Alors que, techniquement, c'est la première fois que Anakin se met en carbonite, c'est dans le dernier épisode.
Ah oui, j'ai vu ça. Il y a des contradictions entre les BD The Clone Wars et la série The Clone Wars.
Même entre les trucs qui sont pourtant même support, ils arrivent à se contredire. Alors après. Mais ce que je voulais dire, c'est justement, c'est que ils réutilisent certaines parties de l'UE, mais en la modifiant pour eux, parce que ça leur plaît pas, ce qui ils prennent ce qui leur plaise, mais délaissent ce qui leur plaît pas. Alors évidemment, après on se retrouve avec de la merde. C'est pour ça aussi que j'ai plus envie de commenter les épisodes, parce que on a tout d'un coup, c'est sympa de voir Quinlan Vos, mais après ils nous ont fait un Jedi Rasta qui parle comme si c'était un gros décontracté.
Il est très bien. Alors franchement, moi j'ai jamais vu avant Quinlan Vos.
Parce que t'avais pas lu les BD. T'aurais lu les BD, tu serais avec nous,
gueulerais. C'est un gros bourrin dans les BD. C'est pas sa personnalité comme on le voit dans The Clone Wars.
Ah mais bon, pour revenir au canon.
C'est pour ça que j'ai un peu peur quand ils nous ont montré la troupe Alpha l'autre jour.
Delta.
Ça me fait un peu peur. S'ils les ont modélisés, j'ai un peu peur qu'ils nous réapparaissent et qu'ils nous mettent encore tout ce qui reste de République Commando à mal, quoi. Est-ce que c'est une des raisons aussi qu'elle nous l'a pas dit, mais est-ce que Karen Travis le savait à l'époque qui commençait à faire apparaître son équipe dedans dans The Clone Wars? On sait qu'elle est partie.
Alors vu ce qu'elle a fait avec Order 66, hein, celle-là, merci.
Mais en même temps, génial. Quand tu lis les romans de Travis et que tu vois The Clone Wars à côté, c'est pas du tout le même univers.
C'est vrai, mais t'admettras quand même que le traitement des Jedi qu'elle fait dans tous ses bouquins ne correspond absolument pas aux Jedi qu'on voit dans les films, dans les séries.
En même temps, c'est 2-3 Jedi parmi une multitude.
Non. C'est les.
Tu parles de qui? Tu parles de Juzik et d'Etain?
Ces deux-là qui, comme ils sont intégrés avec le Papa Poule,
Skirata,
qui sont à peu près bien. Les autres, je te rappelle, l'une des réflexions du gars de Skirata, c'est je vois pas pourquoi est-ce que ce gars-là est général d'une armée, tout ça parce qu'il peut déplacer sa tasse à café sans lever la main.
En même temps, c'est un Jedi parce qu'il ne respecte pas les clones
ni la population. Faut arrêter 5 minutes dans Star Wars. Jedi est gentil, Sith est méchant, et les clones, en un claquement de doigts, ils vont massacrer des gamins. Point.
C'est raccord avec l'histoire de Star Wars, puisque il y avait un ressentiment vis-à-vis de la population envers les Jedi. C'est comme ça que l'Empire a pu supplanter la République.
À la toute fin.
Il a fallu que ça vienne au fur et à mesure. Il a fallu que ce ressentiment se développe pendant la guerre des clones, tout au long de la guerre des clones, pour être à son apogée à l'avènement de l'Empire. Et que tout le monde gobe le mensonge de Palpatine disant que les Jedi voulaient renverser la République.
Mais c'est pour ça aussi que tu parles de ces Jedi-là qui sont dans la République Commando, mais on peut faire aussi un parallèle par rapport à Kira Holt de Knight Errant. Bon, je sais pas si vous l'avez un peu lu ici ou pas du tout encore.
Je n'ai pas trop spoilé,
mais je veux dire dans le roman, je l'ai entendu dans un récent podcast et je suis entièrement d'accord. Même si ça m'a pas tellement gêné dans le bouquin, mais elle a vraiment des pensées pas tellement de Jedi. Je veux dire, elle cherche à venger son peuple, quoi, quand même. Donc c'est pas vraiment elle veut se venger. Elle est un peu pas vraiment cruelle, mais elle veut la vengeance, la revanche. C'est pas une pensée de Jedi. Est-ce que ça va être un développement qui va être, est-ce qu'elle va se tourner vers un Jedi noir plus tard? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'instant, elle flirte un peu avec justement cette idée d'être un Jedi noir. Jedi, mais elle a vraiment des pensées qui flirtent un peu avec le côté obscur.
Non, mais ça, c'est toujours resté les Jedi super, le grand esprit, je suis tout gentil. Moi, je trouve que c'est bien d'avoir modifié un peu ça, parce que sinon, on serait fait chier.
C'est comme tout, je veux dire, il y a les règles qu'il faut observer, mais tous les Jedi, il ne faut pas non plus les observer, je veux dire, ils restent humains.
Quand tu vois Kat Skywalker dans Legacy, c'est pas mieux. Et puis, t'as aussi Génir dans Dark Time, il est aussi un peu borderline, il arrive de prendre des décisions qui sont pas... la décision qu'aurait eu un Jedi pendant l'Ancienne République.
C'est sûr, mais je veux dire évidemment avec les différentes périodes,
il y a aussi la situation qui change et qui les oblige à prendre des décisions.
De toute façon, là, faut revenir un peu au canon, le coup du canon, je crois qu'un jour ils vont péter un câble, quoi. Faut vraiment qu'ils arrêtent, quoi. Chacun prend ce qu'il veut et puis voilà.
Le problème, c'est que ça devient ridicule. Ou alors les bouquins arrêtent carrément pour laisser Lucas s'occuper de son univers, ou alors Lucas faut qu'il fasse comprendre, mais d'un autre côté, qui comprennent un peu l'existence de l'univers. Le problème, c'est que on a tous les deux un univers différent, et je pense que ni l'un ni l'autre arrêteront. Parce qu'il y aura toujours, les lecteurs de bandes, de livres qui voudront découvrir, et de l'autre côté, t'auras toujours les détracteurs de Lucas qui disent, les bouquins, c'est de la merde, il y a que l'univers de Lucas qui compte.
Ah, mais ils font pas de canon, puis point final, quoi. Chacun choisit.
Ouais, ce qui me plaît tellement dans Star Wars, c'est au moins d'avoir une certaine continuité. Et c'est pour ça que
je vais dire quelque chose qui va peut-être en faire bondir plus d'un, mais moi, ce que j'aimerais carrément, c'est que Lucas nous fasse un reboot complet et qu'il refasse la saga. Il refait la saga en une fois, 6 films avec une cohérence historique et graphique, une cohérence visuelle. Et voilà, basta. Et à partir de là, il redéveloppe tout un univers étendu à partir de ça.
Si on commence à parler de ça, je pense qu'on peut trouver un troisième long sujet à débattre. J'aurais pas mal de trucs à dire là-dessus, parce que je me dis, rien que technologiquement, j'ai l'impression que la prélogie est plus développée technologiquement que la trilogie originale. Donc, rien que côté, même si on peut dire qu'il y a peut-être une décadence avec la montée de l'Empire, quand on pense, comparer entre d'un côté les chasseurs Naboo, qui ont une sorte de petit ascenseur pour les R2 et les X-Wing qui sont obligés de les transporter avec une sorte de grue. Il y a quand même une grande différence.
De toute façon, faut pas oublier que Star Wars c'est des films et qu'on, dans les années 70, on faisait pas ce qu'on faisait maintenant. Donc ça, c'est tout à fait normal.
C'est sûr, mais si vous voulez garder une cohérence, même dans les bandes dessinées, quand on compare la technologie qui se passe dans les années -4000, dans les premières Tales of the Jedi, on voit les dessins, on voit que ça fait vraiment antiquité comparé aux dessins qu'on a dans justement la série Chevalier de l'Ancienne République. Il y a complètement un univers derrière. On dirait vraiment que tout est flambant neuf et tout ça.
Oui. D'ailleurs, mais t'as pas joué au jeu KOTOR ?
Non, jamais.
Et Sylvain ?
Ouais, si, je les ai.
Parce que dans la technologie dans KOTOR, ils ont des trucs qu'ils ont pas dans la trilogie originale. Ils ont des boucliers personnels, ils ont plein de choses.
Les générateurs de camouflage,
voilà. Limite, on s'en fout, ça.
Ils ont des interdicteurs alors qu'ils sont pas censés en avoir. Mais alors, ils ont, justement, dans le canon, ils ont trouvé une super excuse bidon, c'est la technologie a été perdue entre temps.
Ouais. Bon,
c'est assez énorme
quand tu dis ça. C'est un peu ça le problème avec la force.
Tu te demandes comment ils ont pu oublier. On s'en fout un peu, les bouquins, en fait, ça se voit pas. Moi, j'ai pas lu les bouquins, mais ça, c'est moins important.
Mais là, on parle de BD.
Oui, mais non, mais je veux dire, pour de BD, je voulais dire ça.
Le canon est moins important.
Le différence de technologie, n'importe quoi, ça se voit moins sur des BD que sur des films.
C'est un peu le problème qui est devenu avec le retconnage, c'est qu'ils sont obligés de retrouver des excuses bidons pour essayer de garder la cohérence.
Évidemment. Et ça peut pas se faire. Sinon, il y a quand même une logique marketing qui s'est installée, hein, commerciale. Donc, si vous voulez continuer à faire vivre l'univers de Star Wars, c'était quand même compliqué d'avoir une cohérence parfaite entre tout. C'est même le cas pour Star Trek, il y a des incohérences. Hein.
Oui, mais
c'est ce qu'il y a.
Par des risies.
Pour Star Trek, ils ont eu le courage de faire un reboot.
Ah bah oui,
il va avoir une suite après le
dernier film. J'espère, parce que moi j'ai bien kiffé.
Ils vont reprendre l'univers de Star Trek et le redévelopper à partir de ce film-là. Donc, il faudrait qu'ils aient le courage de faire ça pour Star Wars, de faire un reboot.
D'un autre côté, je pense qu'il y aura vraiment une révolution de fans, je pense, derrière.
Moi, ce que j'ai peur, c'est que Cathy Lucas récupère les rênes. La fille de Lucas récupère les rênes.
Non, là, je me suicide. Là.
Parce que pour l'instant, elle est scénariste sur The Clone Wars, mais après The Clone Wars,
il faudra. C'est merdique qu'elle écrit.
Je sais, c'est pour ça que je flippe. Parce que si c'est elle qui reprend les rênes de l'univers Star Wars, on est dans la merde, les enfants.
Complètement, là. Non, là.
Alain, il va y en avoir une très longue, hein, et très très noire de période de.
Okay, là. Ah là, je renie tout, là, c'est celle qui reprend la suite.
Ah, c'est mort, ouais.
Alors, pour revenir un peu au sujet de l'émission, je voulais aussi parler un peu de l'autre série animée.
D'accord, si tu veux, pas de problème.
Celle qu'on nous présente depuis déjà 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on en parle, je crois. Enfin, il y avait eu des rumeurs, ensuite ça a été confirmé.
Sérieusement, c'est fait à peine un an.
Donc, ça devrait être une série qui serait portée plus sur la période après le retour du Jedi. Et ça serait une série soi-disant humoristique dans le genre de Robot Chicken. Ouais. Bon, ils avaient dit que ça serait avec les graphismes, le visuel des figurines Galactic Heroes. Ça fait très peur quand on a appris ça. Mais ils ont finalement abandonné cette idée. J'attends de voir ce que ça va être.
L'avantage d'une série comme ça, à la fois humoristique et à la fois pour vraiment jeunes, c'est plus facile de s'en débarrasser du côté canon.
Oui,
parce que évidemment c'est humoristique, je vois pas, à moins que ça soit à moins qu'il tout d'un coup nous invente les aventures des Ewoks ou un truc comme ça, un reboot.
Ça existe déjà, les aventures des Ewoks.
Oui, non mais justement une sorte de nouvelle série où il se sert vraiment de personnages qu'on n'a jamais vus et où la situation humoristique peut s'appliquer. Donc ça peut encore.
Là, ça serait des personnages de l'histoire, ça serait Luke, Leia, Anne.
Oui, donc là le problème avec comment veux-tu faire une série humoristique avec Luke et Leia pour que ça rentre dans le canon.
De toute façon, il y a des trous dans le canon, il y a des périodes, il y a des mois, des jours où il s'est rien passé, donc on peut toujours y caser une petite histoire.
Il y a un trou dans ton canon, sinon ça tire mal.
Moi je demande à voir. Après si c'est bien fait, si c'est drôle, si c'est amusant sans trop perturber la chronologie.
Elle est toujours d'actualité, cette série, ou?
Normalement, oui.
Normalement,
Seth Green a vraiment l'air d'être appliqué à fond, quoi, là-dedans.
Alors, absolument pas la mettre dans le canon, moi. Je dis, tu prends une série humoristique comme Chicken Wars. Il faut pas la mettre dans le canon, ça sert à rien. Oui, mais même, si ça se trouve,
si ça reste pour les gamins de 3-4 ans, vraiment.
Non, mais même.
Je pense qu'on peut dire, c'est Star Wars vu pour les, l'histoire de Star Wars vu pour les gamins, quoi. On vous raconte pour les jeunes gamins dans l'univers de Star Wars, on raconte les aventures pour montrer les grands héros que sont Luke et Leia qui ont détruit l'Empire.
Oui, pourquoi pas. Mais, de toute façon.
C'est quand même un peu pour ça que le prince Ken a été banni de l'univers de Star Wars, quoi. Comme les Galaxies de la Peur.
Pareil, c'est toujours dans le canon. Galaxies de la Peur sont pas dans le canon.
Non, les deux séries ont été complètement radiées.
T'es sûr? Parce que Wikipédia, lui, dit que c'est toujours dans le canon.
J'ai l'impression.
Bon, par contre, les autres auteurs, ils font pas référence, donc.
C'est pour ça.
Heureusement.
Même dans les chronologies, souvent, en début de bouquin, on les voit plus du tout.
Oui, mais alors il faut se méfier parce que Delcourt fait que la chrono des BD qui paraissent chez Delcourt. Fleuve Noir fait la chrono des livres qui paraissent chez Fleuve Noir.
Non, mais la chrono, je pense carrément aux sorties VO.
Parce que dans les chronos en VO,
Del Rey mettait un peu les sorties jeunesse, mais maintenant ils ont tellement plus de place qu'ils ont viré les sorties jeunesse. Mais à une époque, ils mettaient vraiment que les jeunes chevaliers Jedi, les Jedi Quest, les apprentis Jedi, tout comme ça. Depuis le début, je vois plus du tout Prince Ken apparaître nulle part. Ni la Galaxie de la Peur. C'est vraiment deux séries que j'en entends plus parler du tout, quoi. Vraiment comme si elles n'avaient jamais été écrites.
C'est de l'époque. Moi, sinon, au niveau des produits dérivés, vous avez rien à dire, figurines, tout ça.
Je suis pas tellement collectionneur de ce côté-là, donc je ne
sais pas. Si, j'essaye de choper les figurines des Arc Troopers de The Clone Wars. Ouais. Allez, trouver.
Ça, à ce niveau-là, je pense que là-dessus, on peut pas dire qu'on
y aura toujours des sorties. Si je me trompe pas, Hasbro a la licence qu'en 2018, un truc comme ça.
Ouais.
Pour l'instant. Mais les maquettes
aussi. On achète une nouvelle armoire, alors.
Moi, je suis un gros collectionneur de, enfin, j'avais beaucoup de maquettes, maintenant j'ai un peu arrêté, hein. Je me rappelle à l'époque, il y avait tous les, ERTL, là, je crois que c'était le nom des sociétés, AMT, il y avait MPC aussi, et là, il y a Revel qui a repris le flambeau, ouais. Et donc, il nous sort, en décembre, ils ont sorti 5 maquettes, inspirées de The Clone Wars. J'ai pas tout acheté parce que.
Puis il y a les Lego là. J'ai vu le catalogue des Lego qui est arrivé. Ils reprennent tous les éléments de The Clone Wars.
Oui.
Ça va être une folie là. Les collections de Lego, ils vont pleurer. Le portefeuille, il va se vider.
Non, il suffit de courir plus vite que le gym vigile.
Tu veux pas les deux fois au même endroit après.
Là-dessus, tu vois sur le développement de l'UE en produits dérivés. Il y a une mine d'or derrière, et donc ça va continuer.
Je sais pas si on peut vraiment catégoriser les sorties figurines comme de l'UE.
Il y a des fans.
Non, mais ça entretient la
fanitude.
Ouais, la fanitude.
Tu parles de période sombre pour les fans, mais les fans collectionneurs, là, ils vont en avoir pour leur argent.
Oui, mais il y a aussi le fait que les collectionneurs, mais à un côté, est-ce qu'il y a le fait que ça soit aussi l'envie de collectionner? Parce que c'est pas entre l'envie de collectionner et le fait de découvrir au fur et à mesure une sortie, c'est pas pareil, je trouve. Parce qu'il y a vraiment les collectionneurs avides d'avoir la dernière. Qu'est-ce qu'il nous fait, là?
Il joue avec son sabre laser.
Bon, mais il y a entre les collectionneurs et ceux qui sortent, qui voient les petites sorties, qui vous disent, oh, tiens, je vais m'acheter une figurine aujourd'hui. Il y a tout un monde. Parce qu'un collectionneur avide comme Steve Sans Suite, évidemment, lui, il a de quoi faire.
Oui, mais il y a des communautés de fans de collectionneurs.
Mais lui, il est payé pour collectionner. Alors.
Donc, quand tu parles de période sombre pour les fans, il y aura toujours des fans qui trouveront leur compte dans ce qui se fait.
Bah, c'est pour ça que je mettais un petit peu, c'est pour ça qu'il y avait le débat. C'était pour dire, pour certains, il y a une période sombre. Pour d'autres, il n'y a pas de période sombre. Et pour d'autres, c'est moitié-moitié. Et donc, avant de conclure, on va passer à la dernière partie à laquelle dont je voulais parler. C'est la partie événement. C'est pour ça.
Ah, oui, voilà. De toute façon, je pense, c'est pas pour faire une conclusion surtout, mais c'est essentiellement générationnel. Hein. Je pense, 25 ans, au bout de 25 ans, on a marre de Star Wars, quand on passe à autre chose. Quoi. Il y a un renouvellement qui s'est fait.
Mais non, Star Wars, c'est ma vie.
Tu vois, j'étais tout triste.
Là aussi, je voudrais parler aussi de fait de nostalgie. C'était qu'avant, tu avais quasiment plusieurs fois par an, tu avais des événements rien qu'à Paris. Maintenant, à Paris, t'as quasiment plus rien. De vrais événements Star Wars, je veux dire, pas des petits
trucs. Ah bah,
tiens, des petits trucs comme, parce que j'en parlais justement encore une fois sur le forum, mais avant, on avait justement, j'en retrouvais des vieilles photos du collector Rendez-vous. Ça, c'est un événement qui me manque depuis qu'il a disparu.
J'ai connu ça.
Bah, alors, avant de parler des événements, je voulais quand même parler de la communauté française. Parce que, on a eu pendant une époque un fan club, enfin, si on peut appeler ça un fan club, avec le Lucas Mag.
Ouais.
Qui est devenu le Star Wars Mag. Et bon, il a fait faillite.
Alors ça, c'est le gros côté sombre. La faillite du Lucas Mag, c'est vraiment.
Là, encore une fois, c'est justement parce que c'est à cause d'Internet, ça.
Il a fait faillite et depuis, on n'a plus de fan club.
Non, c'est pas à cause d'Internet. C'est parce que.
Ça, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que c'était à cause d'Internet.
C'est parce qu'ils n'ont pas, justement, ils n'ont pas du tout surfé sur la vague Internet, qu'ils ont voulu rester à l'édition papier. Et à part le bouquin, le fan club, il y avait que dalle, donc c'est normal qu'ils se sont bananés. Tu fais pas un fan club ne doit pas être que ça.
Le problème encore une fois, c'est que maintenant le Star Wars Insider c'est plus porté sur l'univers étendu. Mais encore une fois, comment veux-tu porter un magazine français sur l'univers étendu vu les sorties qui se passent?
Mais arrête, il y a quand même pas mal de choses qui sortent en France.
En bande dessinée, je veux bien, mais côté bouquin, c'est quand même pas de chagrin.
Effectivement, Delcourt a presque récupéré la niche du Lucas Mag avec son saga en BD et ses magazines.
Encore une fois, l'avantage de l'Insider, c'est que comme c'est américain, ils sont offerts au jour par rapport aux sorties américaines. Donc évidemment, on peut parler actuellement ils peuvent sortir des commentaires sur Fate of the Jedi, ils peuvent commencer à poser des questions sur le futur de l'univers, mais en France, t'es obligé d'avoir des rejetons qui ont 4 ans de retard presque. Donc comment veux-tu que pour la plupart de maintenant des fans se portent de plus en plus vers la VO, alors faire un magazine français sur les sorties 2011 je pense que maintenant, désormais, c'est 80% des fans ont peut-être déjà lu, ou même lu des spoilers, je veux dire.
Donc, là, c'est pas The Clone Wars Magazine qui va changer grand chose, là.
Non, justement, c'est pour ça.
Mais je pense que... à sa grande époque, le Lucas Mag avait quand même 25 000 abonnés, ou quelque chose comme ça. Oui. Donc, il y avait quand même une communauté française, un fan club, assez imposant, assez nombreux.
Oui, mais parce que c'était quasiment notre seule source d'information sur Star Wars et son univers. Ça fait maintenant depuis 15-20 ans qu'on a le net, qu'on peut aller chercher par nous-mêmes les informations. Il y a tous les produits dérivés qui ont explosé, il y a les BD qui ont explosé, il y a les bouquins qui ont explosé.
Oui, enfin, ce que je veux dire, c'est que ça fédérait la communauté française de fans de Star Wars.
Ouais, mais vu ce qu'en faisait.
C'est vrai que c'était plus un catalogue de ventes par correspondance Club Obi-Wan qu'une vraie communauté. Il y a quand même eu des événements comme les Star Wars Réunions.
Ouais, mais il y en a quand même eu que deux.
Il y en a eu que deux, c'était pas forcément bien fait, mais ça a au moins existé.
Oui, mais.
Et aujourd'hui,
Giro aurait fait quelques des trucs un peu plus du côté un peu Star Wars célébration, c'est-à-dire genre faire un énorme truc porte de Versailles avec plein de vendeurs de comics et tout ça, avec une petite salle de cinéma à côté pour passer des fan films et trucs comme ça, mais ça aurait attiré des tonnes de gens.
Alors que ils auraient fait un vrai fan club à l'origine, ça aurait été encore mieux. Mais
je pense qu'il a pas assez joué sur la communauté Giro, hein, ça c'est sûr.
Ouais. Mais alors maintenant on a plus rien. On a juste les grands sites qui existaient déjà avant comme Star Wars Universe, Sith Clan, Mackin Box, Anakin World, Anakin Web. Et les associations locales,
on a QC,
comme les héritiers de la Force,
justement. Ouais, c'est pour ça, heureusement qu'il y a encore quelques petites associations comme ça qui essayent de faire quelque chose, mais sinon...
Et on a plus rien à l'échelle nationale. Alors moi, j'avais proposé à une époque sur Mackin Box d'essayer de tenter un regroupement et de recréer un fan club. Mais bon, on n'a pas...
Ça tire personne. Même moi, je crois que j'avais proposé à un truc du genre, faire une sorte d'un magazine entre les sites internet, mais... Ça coûte,
le problème,
ça coûte
c'est qu'il faut trouver des gens qui seraient partants pour s'y impliquer 24 heures sur 24.
C'est pour ça qu'il faudrait vraiment faire un truc qui pourrait un petit peu rapporter, mais il faudrait vraiment avoir l'endossement de Lucasfilm derrière, parce que pour faire un vrai magazine qui sort...
Le problème, c'est qu'il faut payer une licence à Lucasfilm pour faire un fan club officiel. Alors, faut déjà des fonds de départ pour acheter la licence. Après, faut
on demande tout simplement déjà à tous ceux qui écoutent le podcast de nous envoyer un chèque de 150 euros par personne à notre nom propre, et puis on verra ce qu'on peut faire avec.
Sacrifier des chèvres aussi pour un reste.
D'ailleurs, à une époque, j'ai fait partie d'un magazine de fans qui sortait comme ça en magasin spécialisé qui s'appelait Obi-Wan, qui a disparu, je crois, en 2002 ou 2003, qui a laissé à la place un magazine qui s'appelait R2. Et justement, c'est ce magazine-là c'est l'association qui appartenait à R2 qui a lancé l'ordre site, le fan film.
Donc, c'était un fanzine?
C'était un fanzine, exactement, qui sortait en magasin spécialisé. Bon, le premier a eu une vingtaine de numéros. Ça avait commencé en 95, un truc comme ça, il a duré 5-6 ans. Et le second, par contre, il a eu 3 numéros parce que ça coûtait, avec le fan film derrière, les gens avaient plus le temps de faire le magazine. Évidemment, derrière, il n'y a pas tellement d'acheteurs, mais je veux dire que c'était possible, quoi, derrière.
Un truc qu'il faut pas oublier, c'est que...
C'était en noir et blanc, quand même. C'était pas tout en couleur, évidemment.
Il y a un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les gens, maintenant, n'acceptent plus de payer, maintenant.
Avec Internet, tu peux faire un fanzine. En publiant des articles régulièrement.
En plus,
le problème, c'est qu'on devrait justement profiter pour surfer sur la naissance, vraiment, le boom des Kindle. C'est que les gens achètent, j'ai vu, les gens achètent de plus en plus des trucs sur les Kindle. Est-ce que des fans pourraient vivre de faire un magazine? Bon, vivre, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'ils pourraient gagner un petit peu d'argent en faisant un magazine qui vendrait comme ça sur des plateformes de Kindle, par exemple, un petit magazine qui vendrait 4 euros en ligne?
Qu'est-ce que t'appelles un Kindle?
C'est les liseuses.
La liseuse électronique. Amazon.
Ah ouais, d'accord.
Les livres électroniques?
Ouais, voilà. Exactement, ouais. Parce que je sais que ça prend de plus en plus d'ampleur. Alors, est-ce que des fans qui pourraient faire un petit magazine comme ça, qui mettraient à disposition en achat sur les Kindle, est-ce que ça intéresserait du monde?
Ben, on parlait de la réédition des romans en français tout à l'heure. Moi, j'espère qu'avec le boom des livres, des supports électroniques de lecture, les livres vont être réédités sur ces plateformes
et on pourra les trouver plus facilement. Parce que je pense que Feu Noir va plus s'emmerder, quoi. Il va sortir les nouveautés, ses 6 petites nouveautés par an. Les 6 petites nouveautés, ça continue à se vendre, mais il sait
quand il y a un changement des Blu-ray, tous les films ressortent en Blu-ray. Donc là, comme s'il y a un changement de support, je pense que tous les vieux livres vont être partis sur ce nouveau support.
T'as de l'espoir, vraiment. Je m'attends pas à grand chose de Fleuve Noir maintenant, vraiment. Ils gardent la licence parce qu'ils savent que ça fait vendre quand même. Il y a quand même une certaine base, parce que je sais qu'ils ont tellement abandonné de séries qu'ils avaient avant, c'est que s'ils ont regardé Star Wars, c'est vraiment qu'ils ont dû comprendre qu'il y avait comme toujours des acheteurs derrière. Ils ont réduit le nombre de sorties et ils ont augmenté le prix, mais ils ont dû voir quand même qu'il y avait comme des fans derrière.
On verra bien.
Donc, on va peut-être revenir...
Je suis optimiste.
Donc, on va revenir sur la partie convention. Donc, je disais, avant, tu avais quasiment 3-4 conventions à Paris par an. Après, en province, il y en avait d'autres. Maintenant, à Paris, bon, t'as des petits trucs comme là, dernièrement, c'est des trucs qui sont pas portés Star Wars. Je veux dire, il y a eu le Paris Manga, mais t'as 3 acteurs Star Wars, mais c'est tout, je veux dire.
Oui, les salons Jeux Jouets Collection et...
T'as un peu de ça, mais je veux dire, avant, je me souviens, mais le Star Day, avant qu'il ait déménagé dans le 12e, il avait une boutique dans le 20e, il avait la place pour acheter, il avait accueilli 2-3 fois plus de 3-4 acteurs d'un coup, je veux dire. Maintenant, il a juste la place de faire une petite sortie avec un seul acteur.
Depuis qu'ils ont déménagé, quand ils le faisaient encore, c'était... un bout de trottoir dans un magasin où on peut pas tenir à plus de 10 à l'intérieur, et c'était le magasin du photographe à côté qui permettait de faire des dédicaces.
Alors qu'au moins, quand j'étais dans le 20e, ils avaient une sorte de petite galerie, et quand ils faisaient ça le week-end, la galerie était fermée, et il y avait de la place pour les gens, pour monter, il y avait des petits stands, justement, il y avait des stands, je me souviens, je crois qu'il y avait des présentations de sites clans, de Star Wars en direct, et tout ça.
On y avait participé plusieurs fois.
L'an dernier, on a quand même eu une belle année, puisqu'on a eu le concert à Bercy, et le festival Jules Verne de 30 ans, Empire contre-attaque.
Oui, mais je veux dire, le festival Jules Verne, c'est pas un truc vraiment officiel Star Wars, je veux dire.
Mais là, c'était les 30 ans, donc on avait un événement.
Oui, mais je veux dire, là, justement, c'est pour ça que j'ai un peu espoir de, faut vraiment supporter l'événement Pulp, ce qu'il va y avoir en fin d'année. C'est parce que je me dis, si ils ont du succès, on pourra peut-être espérer avoir ça, annuellement.
Et dans la tête, Henri, t'as eu un autographe de Mark Hamill gratis.
Ouais, raclure, tu nous as même pas pris une pub, qui redescendait, hein, enfoiré.
Bah si, j'ai pas eu tout le monde.
Non. T'as bien vu que nous on partait, hein. Et puis au lieu de nous rappeler,
on était carrément tous là pourtant.
Non, il y avait plus Sith Clan, il y avait tout SWU, mais.
Fallait attendre, c'est tout, c'est le problème.
Vous êtes partis tellement vite, je pense surtout.
On reconnaît les vrais fans à ceux qui attendent.
Ah bon, en tout cas, j'espère vraiment qu'on va avoir.
Attends. Clément, est-ce que t'as vraiment envie que je la mette sur YouTube, ton interview par...
Oui, ça fait un an que j'attends ça, quand est-ce que tu le fais? Tu l'as encore?
Je dois encore avoir les rushs, mais comme la qualité est vraiment trop mauvaise, surtout qu'on m'entend, on t'entend très peu, mais ce qu'on entend c'est le rire d'Henri et le mien, on entend ton gros bide monstrueux.
Oui, fais-le. Non, parce que je me suis tapé un gros vent sur Star Wars Universe, parce que je l'ai teasé en disant attention le petit journal, là j'ai passé au petit journal, ça va être énorme. Ils m'ont engueulé parce que je l'ai teasé dans le vent et que ça arrivait pas. Alors franchement, sans la vidéo.
Vas-y,
on la veut.
Il faudrait que je le fasse. Je l'ai encore la vidéo.
On la veut.
Bon, en tout cas, pour revenir sur le sujet, donc je pense qu'il y a toujours des événements, mais ça a complètement bien baissé. Avant, je me souvenais, il y avait aussi les sorties Arkham à l'époque. La boutique Arkham, quand elle était encore rue Soufflot dans le 5e, elle était encore une grande boutique, et elle faisait facilement plusieurs fois par an, elle faisait venir des acteurs à Paris. C'est comme ça que j'ai eu la dédicace de Ray Park à l'époque.
Mais Sylvain, t'es parisien toi aussi, non?
Hello?
Il est mort.
On a perdu Sylvain?
Non, on a perdu Sylvain.
Ah non, je suis encore là, je me fais juste à manger.
D'accord. tu es parisien toi aussi, non?
Non, j'habite dans le 96.
T'es pas loin de Paris.
Ouais.
Ah, parce que là, tu nous parles des événements parisiens, mais ça concerne que toi, Dax. Parce que t'es le seul parisien.
J'allais passer, parce que je parle de ce que je connais, je veux dire, c'est pour ça. Ouais. Et donc, j'allais en parler des autres après.
Ce que tu racontes,
parce que comme je suis parisien, c'est que je fais c'est juste pour dire que maintenant, on n'a plus rien à Paris. Avant, on avait les Stardais, on avait Arkham qui faisait ses invités d'acteurs, mais maintenant, ils font plus rien parce que d'ailleurs c'était le gérant qui s'appelle Numa Rodagil qui s'occupait des événements Arkham, qui faisait aussi le collector rendez-vous derrière, qui était vraiment la rencontre de l'année des fans de Star Wars et des fans de comics, parce qu'il y avait, je sais pas, une dizaine d'acteurs, il y avait toute une salle à Salvagram, dans le...
Ils faisaient des émissions d'ailleurs, qui passaient sur la 5 à l'époque.
Peut-être, je sais pas.
Il me semble, ou je sais plus si c'était,
on avait quand même c'était vraiment une vraie convention Star, presque comme convention Star Wars, le collecteur rendez-vous.
Mais d'ailleurs, après, il me semble.
Il y a une numéro d'Agile qui a arrêté de faire sa boutique, qui a déménagé maintenant dans je sais plus quel quartier, je sais plus du tout là où je passe, donc je crois qu'il est même plus propriétaire. Le collecteur rendez-vous a arrêté en 2003. Et Stardé fait plus que ses petites invitations de temps en temps d'un acteur.
À l'époque, Numéro d'Agile avait invité Mark Hamill sur le plateau de l'émission.
Ouais, c'est ça. Mais c'était Canal+.
Non, je sais pas si c'était Canal+. Je vais avoir cette photo dans un début Casmag, il me semble. Mais en tout cas,
c'était Numa quand même qui avait quand même les plus principaux, hein. C'était trois quatre fois par an, il faisait les invités un acteur à Paris, et après il avait son gros collecteur rendez-vous qui était vraiment la rencontre de l'année. Sur Paris, il n'y a plus rien, mais effectivement maintenant ça s'appelle.
Ah si, il y a les salons Je Jouais Collection où ils invitent.
Oui, mais c'est plus vraiment que du Star Wars.
Oui, mais ils arrivent quand même à avoir quelques acteurs, des officiers impériaux et le type qui joue au Buffett, qui s'appelle Jérémy Belloc.
Il vient souvent, lui. À part ceux-là qui viennent à chaque fois, je veux dire, c'est quasiment, t'as une convention, t'es sûr d'avoir, ou alors t'auras Jeremy Bullock, ou t'auras Dave Prowse, quoi.
Ouais. On va attendre 40 ans, puis on aura Nathalie Portman, c'est déjà mieux que rien.
Ouais, c'est sûr, mais après, quand tu les as vus 50 fois, tu dis, ouais, bon, encore eux.
Ouais, c'est clair. Hein.
Ça doit quand même coûter assez cher de les faire venir.
C'est sûr, mais après, évidemment, on a lu les deux Star Wars que c'est, réunion en France, mais là aussi, passer 99% de son temps dans la salle de cinéma, c'est sympathique, mais à force, c'est un peu chiant, quoi.
Avec les, au balcon, avec les jambes coincées dans la rambarde.
J'ai eu du pot d'avoir eu mes places rapidement et j'ai pu être dans l'orchestre. Mmh. Heureusement, parce que sinon.
Je crois que c'est pour moi le plus décevant des deux Star Wars Réunion. C'était même pas les fauteuils du Rex qui sont vraiment à chier.
Ouais,
c'est plutôt que quand tu veux aller dans les boutiques à côté où
il y a pas
grand chose. Et de toute façon, c'est tellement petit, il y a tellement de monde que tu restes dans la salle. T'es quasiment obligé de rester dans la salle.
Bah ouais,
d'y aller quand il y a les gros événements à l'intérieur, puisque tout le monde sait.
C'est pour ça, c'était bien la Star Wars Réunion 2, en étant membre de Lucas Mag, on pouvait rentrer une heure plus tôt. Alors c'est pour ça, je m'étais dépêché de faire le tour, de prendre les dédicaces et d'acheter les produits un peu exclusifs. Comme ça, j'étais tranquille après pour tout le week-end. Comme ça, j'ai pu avoir la dédicace de Doug Whitley qui a dessiné Dark Times. J'ai pu avoir la dédicace de Steve Sansweet et tout ça. Alors qu'il n'y avait pas encore.
Eh ben, nous, on aura leur dédicace à QC, parce qu'ils viennent à QC.
Et toi, tu vas pas. J'ai déjà eu, moi, je m'en fiche.
En tout cas,
c'était l'avantage, justement, de Star Wars Réunion, c'était sympa d'être en salle, mais à côté, t'avais rien, quoi. C'était vraiment une type de salle, quoi.
Mm-hmm. Et c'est un peu. Il y avait quand même des petits stands, mais effectivement, c'était dans une pièce toute petite et beaucoup de circulation.
Ouais, effectivement. Mais si effectivement, par contre, je vais faire pas vraiment un parallèle, mais c'est que les sorties en province ont fleuri, par contre.
Ouais,
maintenant, il y a QC, effectivement, qui n'existait pas il y a quelques années.
Si, quand même. C'est leur 11e édition.
11e, 10e, 11e
déjà.
Ah oui.
Bon, peut-être que c'est...
C'était moins important au début, mais ils sont vite devenus une...
Par contre, il y a Studio Police qui avait eu l'UMS qui a arrêté, par contre. Qui n'a pas eu le succès escompté et qui a arrêté en 2005, je crois.
Il y a Migen et Macon.
Ouais, ceux-là, c'est encore récent, je crois, Macon.
Enfin bon,
en tout cas, ça a plus fleuri en province que maintenant, plus qu'avant.
QZ s'appelle vraiment Génération Star Wars, même si après, il y a, c'était science-fiction, donc il y a effectivement d'autres stands sur d'autres films, d'autres univers. De fantasy.
C'est vraiment, il y a quand même Star Wars, c'est QC, le tout Star Wars de l'année, parce que.
Il y a vraiment une majeure partie sur Star Wars.
Parce que Macon, même s'il y a du Star Wars, c'est un peu de tout.
C'est généraliste.
Bon, en même temps, c'est 90% Star Wars, parce que, comme t'es les principaux acteurs qui viennent, c'est Star Wars, mais.
C'est ce qu'on disait au début, c'est que, en France, on n'a pas une très grosse communauté de fans de Star Wars, donc ils sont obligés de faire des événements généralistes pour avoir quand même du monde.
D'ailleurs, c'est qui l'acteur qui vient cette année à QC, là?
Un acteur, on sait pas encore. Demain à 17h, il y aura une news.
Ouais.
Non, parce que Arès nous a dit que c'était Han Solo, et pendant 5 minutes, on l'a cru. On n'a pas eu l'arc-en.
Comment ça, vous avez cru Arès?
Oui, aussi, c'est ça. Comment est-ce qu'on a pu croire Arès, là?
Bon, alors, peut-être passer à une conclusion, sauf si vous avez encore des petites commentaires.
Je pense que niveau produits dérivés là-dessus, il y a vraiment de.
Donc on va conclure sur le sujet. Ah,
on a quand même un petit mot sur le renouvellement de la population générationnelle des fans de Star Wars.
On en a un peu parlé tout à l'heure, non?
Parce qu'avec une série comme The Clone Wars et son UEBD magazine, il y a toute une nouvelle génération de fans qui découvrent l'univers Star Wars, même sans avoir vu les films, qui deviennent déjà fans. Et avec la ressortie des films en 3D, il va y avoir donc tous ceux qui avaient 5 ans en 99 et qui n'ont pas forcément pu voir la prélogie à l'époque, qui vont redécouvrir l'univers Star Wars et se l'approprier. Donc on va avoir une poussée de fans jeunes derrière, et on le voit déjà sur Star Wars Universe. On voit il y a de plus en plus de jeunes de 13, 12 ans qui s'inscrivent et qui commencent à participer.
Mais c'est aussi le problème, c'est que les fans de 97 commencent à vieillir eux-mêmes, donc évidemment ils voient pour l'instant d'un mauvais œil. Enfin, d'une certaine façon, parce que justement, on voit d'un mauvais œil les fans de 12-13 ans, et on se dit ça, ils vont parler en kikoulol, ils vont nous faire chier, ils vont encore recommencer à sortir des topics en disant c'est qui le meilleur Jedi de la galaxie.
Ah ouais, bah, mais en même temps,
je sais pas quelle a été l'attitude des fans de Star Wars, des hardcore fans qui ont vu les nouveaux fans arriver en 97, je sais, ou même en 99. Je sais pas comment ils ont vu l'arrivée des petits jeunes comme moi, parce que moi j'ai eu l'internet, j'ai vraiment commencé à y aller en 2001, fin 2000, 2001, donc j'avais 13 ans, 14 ans, donc j'étais un petit jeune qui parlait n'importe comment, quoi.
Donc,
est-ce que les fans de 30 ans de ce moment-là, est-ce qu'ils voyaient pas d'un mauvais œil ces petits jeunes qui arrivaient pour faire chier la communauté?
Si tu veux te marrer, tu vas sur SWU, tu cherches mes tout premiers posts. Je tapais en kick lol, c'était pas mal.
T'as pas changé de toute façon.
C'est pas faux. Les fans de la première heure aussi, là, ils sont vieux aujourd'hui. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils essayent d'en faire des fans eux aussi. Ils essayent de faire de...
On le voit avec Thomas d'ailleurs.
Hein, on a un sujet sur SW qui s'appelle Le bébé, je suis ton père, et c'est tous les fans en couple qui essayent de transformer leurs enfants en fans de Star Wars.
Et après, d'un autre côté, t'as aussi ces genres de fans like, mais qui n'ont plus le temps de passer sur Internet justement à cause de leur vie de famille. Peut-être qu'ils partagent la passion Star Wars, mais peut-être qu'on les voit moins en ligne parce qu'ils n'ont plus le temps justement à cause de leur vie de famille. C'est comme ça le créateur de l'Ordre City qui s'appelle Ludovic. Je sais qu'au début, quand il expliquait, et pour rire, il n'était pas encore marié, mais je crois qu'il était à peine marié, il venait d'avoir un gamin. Et après, évidemment, depuis, il a 4 gamins et tout ça. Donc, évidemment, il a plus le temps, on le voit plus, il passe plus sur Internet et tout ça. Il a plus le temps de participer à un truc de Star Wars. Et pourtant, il est toujours fan et il partage sa passion, mais il a disparu. Après, il a plus le temps de participer à Internet, quoi.
Oui, mais donc, pour revenir sur ce que tu disais, il y a ceux qui voient les fans néophytes, la jeune qui arrive d'un mauvais œil, mais il y a aussi ceux qui les voient avec sympathie et, qui sont tolérants avec eux.
Ils sont mignons, les nouveaux.
Voilà.
C'est jugé.
Et puis, je voyais même un type qui postait sur SW qui racontait que ses parents sont fans de Star Wars.
Ouais.
Donc, là, t'as ceux qui deviennent parents et qui essayent de faire que leurs enfants soient fans, et t'as même ceux qui sont devenus fans parce que leurs parents étaient fans de Star Wars. Donc, ça se transmet de génération en génération. Il y a un nouvel élan sur les communautés de fans, là.
Ça fait vivre l'univers.
Un renouvellement générationnel.
Oui, c'est pas plus mal, mais comme l'univers Star Wars lui-même a changé, même si on a un renouveau, les gens eux-mêmes ont changé par rapport à leur vision de Star Wars. Parce que les jeunes qui deviennent fans par rapport à, en commençant par Clone Wars, ce sera pas les mêmes qui ont commencé à regarder la trilogie originale en 97, par la trilogie en 99. Comme l'univers, il change de plus en plus, les fans n'ont pas la même mentalité qu'à l'époque, quoi.
Tout à l'heure, tu décriais la saga du Prince Ken, mais moi, j'ai commencé là-dessus. En 94, c'était la série jeunesse que je lisais, et c'est comme ça que j'ai accroché à Star Wars.
Ce sont mes premiers bouquins que j'ai lus de l'univers avant d'attaquer l'héritier de l'Empire. J'ai dû lire les 6 Prince Ken en une semaine, quoi.
Donc, tu vois, à l'époque, quand on se pointait sur Internet, c'est Kikoulol, je suis un fan de la saga du Prince Ken, et que t'avais les autres qui me disaient, oh non, la saga du Prince Ken, c'est pourri, nous, on lit la trilogie 3. Il y avait déjà à l'époque un petit conflit générationnel.
Bah, effectivement.
Entre-temps, après, on a grandi, on a découvert les vrais romans. Donc là, ceux qui commencent avec The Clone Wars, quand ils liront les BD Clone Wars et qu'ils verront que la Guerre des Clones s'est pas du tout passée comme ça, ils se sentiront comme nous trahis.
Là aussi, il y a un changement des générations, c'est qu'on voit bien que les gens lisent de moins en moins d'un autre côté.
Oui aussi.
Si je vois bien dans les photos de collection des fans, il y a... Les bouquins, c'est une minorité, quoi.
Ah, c'est vrai que ça fait l'opposition avec toi, puisque t'as quand même une sacrée
collection de bouquins, quoi.
Bah, je lis depuis que je suis tout petit, c'est un truc que j'ai toujours adoré, donc évidemment, donc j'ai baigné dans l'univers étendu de Star Wars dès qu'il a commencé, quasi, pas vraiment carrément, mais comme il n'y avait pas grand chose quand j'ai commencé en 97 à lire tout de suite la trilogie de Tron, donc c'était en pocket, donc j'ai commencé tout par ça, et donc évidemment j'ai vu toute la naissance, vraiment l'expansion de l'univers étendu, quoi. À l'époque, il y avait que 3 séries, il y avait l'Académie de Jedi, il y avait la trilogie corellienne, il y avait la trilogie de Thrawn, c'était à peu près tout, avec évidemment la invitation, donc j'ai vu toute la naissance de l'apparition des séries chez Fleuve Noir, donc évidemment j'ai vu tout ce changement-là.
Grosse époque.
Voilà. Donc on va pouvoir conclure. Donc pour conclure, c'est comme je fais comme d'habitude, c'est que chacun va donner son avis général sur la question en quelques phrases. Donc on va commencer par... Allez Sylvain, commence.
Ma conclusion, pour moi, je pense que là, il y a un renouveau, et il y aura toujours un renouveau des fans. C'est vrai que même si c'est les conventions ou l'effet des films est atténué, il y aura toujours le petit quelque chose qui maintiendra le patient en vie. Et puis il suffira d'une étincelle, que ce soit les 30 ans d'un film, la ressortie d'un tel. Je rappelle qu'en septembre, il y a déjà le coffret Blu-ray qui est arrivé, et il n'est pas rentré premier en 2 heures des ventes sur Amazon pour rien, quoi.
Oui, bah, ça a été le Blu-ray le plus attendu. De toute façon, comme ça a été les cassettes les plus attendues, comme ça a été les DVD les plus attendus, ce sont les Blu-ray les plus attendus.
Il y a toujours cette attente, même si...
C'est pas ça qui va faire revenir plus de fans, toi.
Ah si.
Je pense qu'on en parlera plus tard.
Parce que il va y avoir une génération de fans qui va découvrir les films en Blu-ray.
Ouais,
déjà et d'une. Si table. Moi j'ai des collègues de boulot, leurs gamins ils ont 5, 6, 7 ans, ils regardent Star Wars via The Clone Wars et quand ils sortiront les Blu-ray, ils regarderont aussi les Blu-ray.
Ouais. Voilà. Donc vas-y, enchaîne, Clément.
Ben moi je reste optimiste, donc je pense qu'il y a il va y avoir pas mal de développement dans l'univers étendu, donc avec des séries porteuses comme ben, The Clone Wars qui crée son propre UE, Le Pouvoir de la Force, il va quand même y avoir un développement à venir, il va y avoir Thor, donc j'ose espérer que Thor va avoir un développement un peu comme WoW, et donc qu'il y ait pas mal de BD, de romans qui suivent. Excuse-moi, il y aura des elfes.
Il y aura des elfes.
Il y en a déjà dans The Clone Wars des elfes.
Pas de malheur.
Quand je vois comment les actus Star Wars buzz sur Internet, notamment dernièrement la dernière en date, la pub Super Bowl, vous l'avez tous vu. Ça a buzzé sur tous les sites.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Ça a buzzé sur tous les sites, sur Facebook, tout le monde a fait des news dessus. Donc quand je vois comment l'info circule autour de Star Wars, je vois qu'il y a quand même une grande communauté de fans et de sympathisants Star Wars qui est toujours là, qui guette. Donc je pense qu'il y a encore du bon à venir pour Star Wars. On n'est pas dans une période sombre. En plus, avec la ressortie des films au cinéma en 3D, ça va faire des événements monstrueux. Il y a de l'avenir dans Star Wars.
On va vas-y Arnaud maintenant.
Ouais, bah moi c'est un petit peu plus compliqué en fait, puisque bon, je lis pas trop tout ce qui est roman. Alors j'avais lu un petit peu jusqu'à Victor Prime, je crois. Pareil, je lis pas beaucoup de BD, donc moi tout ce qui est BD, tout ça, vous allez en avoir, c'est clair. Moi j'en aurais pas. Je suis plus axé tout ce qui est film et animation comme The Clone Wars.
Jeux vidéo aussi.
Jeux vidéo, oui, à une moindre mesure. Donc c'est vrai que de mon point de vue, je vais avoir sûrement moins de choses. Maintenant, ça m'empêche pas de considérer que Star Wars a de l'avenir devant lui.
Hein, t'auras quand même l'autre, la nouvelle série télé,
oui, voilà,
la
exactement.
Série live,
la sortie des films. Donc moi oui, je pense qu'il y a de l'avenir. Hein. C'est en tout cas moins sombre que la période 83-87. Voilà.
Je vais conclure. Donc pour moi, je suis un peu comme vous, je suis un peu mitigé donc entre les deux. Donc évidemment, je pense que on est à la fois dans une période sombre, mais pas vraiment, parce qu'effectivement, si on repense à la période sombre de 83 à 95, on va dire à peu près jusqu'à la sortie des ressortie des cassettes et à l'arrivée des premières infos sur l'édition spéciale. Effectivement, comme je disais, il y avait presque pas d'UE. Donc effectivement, de nos jours, il y a un UE très présent qui a carrément supplanté les films. Parce que maintenant, quasiment plus de la moitié des fans se basent sur l'UE pour avoir leur dose de Star Wars. Donc effectivement, on a quand même une période sombre, parce que comme j'en parlais, la communauté des fans a changé. Mais je pense que ça va doucement revenir, surtout principalement avec l'arrivée de la série live. Justement, comme j'en parlais encore tout à l'heure, justement cette envie de découvrir le dernier spoiler qui va dire aux fans venez, on va vous offrir la dernière info inédite de la série.
Et puis tout simplement revoir Star Wars avec des acteurs, comme ça.
Je pense que le fait que ce soit des gens live, je pense que ça va relancer le truc.
C'est clair.
Donc je fais ma petite conclusion. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, contactez-nous à l'adresse studio@swendirect.com. Vous pouvez également rejoindre notre groupe Facebook où vous pourrez discuter avec les animateurs et suivre nos faits et gestes sur Twitter. de la part de Sylvain, Arnaud, Clément et moi-même. Merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix de la communauté francophone de Star Wars, et à très bientôt.
Salut.
Salut.
Salut.